Rousseau à Boulevard 102.1.
Midi bien tapant sur Québec. Émission N'en jase sur Boulevard 102 avec Jeff Fortin, Pascal CV. 418-971-1021 pour nous rejoindre. On adore vous lire. Il y a énormément d'actualités aujourd'hui, encore une fois, donc n'hésitez pas à commenter, on va vous lire. C'est clair qu'on vous lit. On va vous parler de vous en ondes. On va vous réécrire aussi. Peut-être pas tout le monde, mais on essaye de le faire au maximum. BLVD.fm pour la web radio. Vous allez retrouver également l'essentiel de nos meilleurs moments. BLVD 102.1, l'application sur App Store et Google Play Store. Et twitch.tv/BLVD/FM. Pascal CV, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va très bien. Jeff Fortin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si vous voulez aller sur Twitch...
J'ai ma petite Twitch!
Je suis entourée de deux cartes de mode aujourd'hui.
Ben ouais.
Toi, t'es comme, je sais pas, petit...
J'avais le goût.
Polar avec une belle petite chemise, moi. Beau bonhomme. Puis on a notre Antonine Iaccarini aussi, belle femme. Aujourd'hui, vous avez des kits d'enfer.
Comment ça, aujourd'hui?
On est tellement de même, hein?
Ben
moi, et qu'on est à Nantes.
Ben non, mais moi, c'est parce que d'habitude, j'ai la calotte des fois, ben je l'ai un peu.
Par en arrière, puis son petit chandail
sportif.
C'est
tout le temps chic.
Mais là, aujourd'hui, je me suis mis beau.
Ça se passe quoi? C'est-tu la politique? Vous êtes en point de presse?
Pas en tout, c'est rien. Moi, j'avais juste le goût de m'habiller comme ça. Je trouve, je te l'ai dit hier, je trouvais ma blonde jolie. Donc, j'ai dit, tiens, je vais me mettre beau, moi aussi.
Ouais. C'est beau, ça. Bravo, ouais, t'es très beau.
Je vais me mettre beau, moi aussi.
Madame Iaccarini?
Moi, je suis tout le temps habillée de même. Il n'y a pas de différence avec d'habitude.
Non, mais je ne sais pas, le petit pantalon, un petit style et tout ça. Toute la saison télévisée a recommencé aussi.
Absolument, mais aujourd'hui, je n'ai pas de télévision. Hein? Alors, parce que quand vous me voyez arriver, tirer à quatre épingles, puis maquillée, puis peignée, puis tout ça, je veux vraiment pas être insultante, mais généralement, c'est pas pour la radio, tu sais. C'est parce que j'ai de la télé après.
En tout cas,
c'est tellement correct.
Mais là, j'ai pas de télé aujourd'hui, alors c'est mon look de radio.
Très belle, merci.
Ah, ben on l'apprécie, Antonine. Vous venez de l'entendre, Antonine Iaccarini, donc on va sauter à pieds joints dans le...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Antonine Iaccarini, ça va bien?
Très bien. Trop de sujets encore.
Ouais, exactement. Ça va mieux que François Legault, d'après moi.
Ouais, je pense qu'il y a pas mal de monde qui va mieux que François Legault. C'est la folie des sondages encore.
Oui, exactement. Sondage Somme, Le Soleil, et sondage Léger, Journal de Québec, Journal de Montréal. Fait que on sait que la CAQ est dans le trouble à deux places.
Ouais, bon, il n'y a pas un des deux qui est vraiment meilleur que l'autre. Par contre, celui, le sondage Somme, c'est se concentre sur la région de Québec. Donc,
oui,
vraiment intéressant.
Commençons par celui-là.
Absolument. Donc, c'est un sondage qui a été mené entre le 11 et le 14 septembre. Donc, tout de suite après le remaniement ministériel. Donc, on essaie de voir aussi s'il y a du mouvement, si le remaniement a un effet quelconque sur les électeurs.
Et il y a aussi ce sondage-là qui a été fait pendant que c'est super difficile aux abords des ponts. En pleine construction avec les chantiers, pourquoi on apporte cette attention-là? C'est qu'hier, on a eu en entrevue une partie de ceux qui ont sondé. Puis Antonine, je suis sûre que ça fait partie de ton analyse aussi, puisque dans la grande région de Québec, les enjeux de mobilité sont très forts.
Bien, ces temps-ci, moi, j'habite à Sillery, là. Sortir de mon quartier en ce moment, là, rajouter 20 minutes. Bon, c'est pas la fin du monde. Vous allez me dire, si vous allez faire un tour à Montréal une fois de temps en temps, vous allez pouvoir vous comparer, vous consoler. Cela dit, ces temps-ci, il y a vraiment un impact très, très fort sur l'horaire de tout le monde. Puis moi, je me disais aussi que ça pourrait avoir un impact sur l'élection municipale. Parce que même si, bon, la tête des ponts, c'est plus le MTQ, tout ça, on a une impression qu'à chaque coin de rue, on est bloqué puis que, qu'il y a une entrave. Ça, je me demande si ça peut pas avoir un impact sur les élections municipales qui commencent. Donc, ce sondage Somme, pas de surprise, il y a 83 % des gens sondés qui sont insatisfaits du gouvernement Legault. Sur ça, c'est 51 % qui sont très insatisfaits.
Aïe, aïe, ça veut dire un citoyen sur deux dans la région de Québec est très insatisfait de la CAQ. Antonine, toi qui as déjà été dans les partis politiques, ça ne se remonte pas une pente de même.
C'est difficile, mais en même temps, vraiment, ce qui s'est passé au fédéral l'année passée nous oblige à plus de prudence. Alors, c'est dur.
Bon, ben moi, je vais le dire. Ça ne se remontera pas pour la CAQ.
Parfait. Donc, Jeff se mouille. On parle d'un taux de satisfaction de 12 %. Ben 12 % plutôt satisfait, 2 % très satisfait. Hey, donc 14 %
2 % très satisfait, 51 % très insatisfait.
C'est qui?
Ça, c'est 49
%. Ben, c'est qui le 2 %
C'est le staff de la CAQ et les députés.
C'est-tu la famille?
C'est la famille. Donc, juste vous dire, pour comparer avec d'autres gouvernements qui sont, là, je le mets entre guillemets, en fin de régime, encore de manière très prudente, passer sous la barre des 20 % ce n'est pas quelque chose qui arrive régulièrement, surtout quand on a été élu avec 90 députés. En 2022. 12 % de plutôt satisfait, 2 % de très satisfait, c'est extrêmement bas. Puis Québec, c'est pas... Si on faisait un sondage à Montréal, ça serait encore pire probablement. Mais Québec, c'était une région qui était fertile à la CAQ.
Bien, normalement, c'est un terreau fertile pour la CAQ pour plusieurs raisons, notamment parce que la CAQ s'est fusionnée avec l'ADQ et à l'époque, l'ADQ avait des excellents pointages ici dans la région de Québec. Là, ce qui met depuis 2 ans, c'est que c'est le PQ. Puis on n'a jamais vu le PQ fort dans la région de Québec. Et là, s'il y avait des élections demain matin, ça serait un raz-de-marée péquiste dans la région de Québec. Comment tu l'expliques?
Ben c'est ça. C'est très surprenant parce que depuis le début des années 2000, le PQ à Québec, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Agnès Maltais a été toute seule pendant des années. Après, le PQ
vraiment?
A été rayé de la carte pendant un bout de temps. Puis, il y a eu cette élection partielle dans Jean Talon, arrivée de Pascal Paradis. Jean Talon, c'était pas la circonscription non plus la plus fertile au PQ. Il l'a jamais eu.
C'était toujours les libéraux avant la CAQ.
Toujours. Donc, il y a ça aussi dans la surprise. Mais une élection partielle comme ça, c'est un cas un peu particulier. Mais là, quand on regarde vraiment la carte avec les projections, on est dans un raz-de-marée péquiste. C'est le PQ qui réussit à incarner davantage de changements. Et il faut dire aussi, Région de Québec, électorat très francophone, toujours un petit peu moins facile pour les libéraux, mais les libéraux ont eu plusieurs comtés à différents moments.
Est-ce qu'on donne ça au PQ majoritairement ou on donne ça à l'insatisfaction caquiste?
C'est les deux. En fait, c'est une dynamique entre les deux. Le PQ a réussi à bénéficier de cette insatisfaction face à la CAQ, mais aussi que les idées nationalistes sont toujours dans le vent, j'ai envie de dire. Les partis de très, très gauche ont de la difficulté. Les partis qui sont un petit peu plus antinationalistes ont plus de difficultés partout, sauf à Montréal, dans certains quartiers. Je vous parle d'un deuxième sondage, c'est le Léger avec le Journal de Québec, qui dit lui aussi que le remaniement n'a rien changé. Là, on est sur la scène nationale, donc on n'est pas seulement dans une seule région. Ce qu'on voit, là, c'est que ce remaniement-là, moi, je pense que ça aurait pu changer quelque chose. Honnêtement, pas on pogne 20 points d'un coup, mais ça aurait pu faire bouger un petit peu l'aiguille, mais on a tellement monté les attentes, on a tellement étalé l'effet du remaniement à l'annonçant d'avance que finalement, c'est sûr, quand on pose la question aux gens, ils répondent que ça change absolument rien, cette affaire-là. Donc, à la question « Croyez-vous que le remaniement va donner un nouvel élan au gouvernement de la CAQ? » 69 % des gens répondent non et 14 % des gens répondent oui. Un 18 % de « ne sait pas » et « refus ». Et sur les intentions de vote, c'est le PQ qui continue de dominer. 38 % pour le PQ, 27 % Parti libéral du Québec, 16 % la CAQ. On a vu un sondage à 11 % récemment, mais ce n'était pas un léger.
Non, c'était un palace.
C'était un palace. Et 11 % Parti conservateur du Québec et 7 % pour QS.
Hey, ça, c'est la mort.
C'est la mort.
C'est la mort de QS à l'heure actuelle. On a voulu se radicaliser encore plus à gauche et c'est ce qui explique. Parlant du PQ, on avait Pascal Paradis en entrevue à Marceau le matin. On a parlé indépendance. Je vous fais entendre. Donc, vous allez être prêt à foncer en campagne électorale avec le thème de la souveraineté du Québec dans le premier mandat.
Bien, la tradition est respectée. Vous me reposez des questions, alors je vous redonne la même réponse. Les Québécois apprécient, je pense, cette franchise, cette honnêteté, ce courage qu'on a de dire « Cette question-là, elle est importante. Elle va être posée aux Québécoises et aux Québécois dans le premier mandat d'un parti québécois comme gouvernement. »
Moi, M. Paradis, j'ai pas le droit de le faire, mais je vais le faire pareil avec vous. Je vous gage 1 $ que vous allez reculer.
Ben, j'espère que vous ne tenez pas trop à votre dollar. J'espère que vous ne l'appelez pas mon précieux, parce que vous risquez de le perdre.
Il ne démord pas, Pascal Paradis. Ça fait 3 fois que je lui pose la question, chaque fois qu'il vient en entrevue. Vous êtes sûr, dans le premier mandat, puis il dit dans le premier mandat. On va-tu vivre un changement ou on y va vraiment all the way, le PQ en campagne électorale, pour dire c'est le premier mandat?
Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'ils tiennent cette position-là jusqu'au bout. Par contre, s'il y avait une possibilité qu'ils changent d'idée, ils ne vous le diraient pas.
Okay? Non, c'est ça. Hein?
Si c'était François Legault, ils vous le diraient. parce qu'il pense à haute voix. Puis il ouvre des portes. Puis là, je vais peut-être faire un remaniement. Hein, puis
il dirait ouais, ben, je veux pas vraiment faire une blague, mais Cruella.
Mais ça, ça lui nuit-tu, mais admettons, là, une petite parenthèse, justement, de toujours penser à haute voix parce que c'est comme s'il n'y avait pas de. D'engagement sincère qui tentait tout le temps les eaux.
C'est ça que j'allais dire. C'est que, dans le fond, en politique, la tradition... Pourquoi c'était la tradition? Parce que c'était plus efficace. Tant que tu n'as pas pris une décision, tu ne laisses pas planer des doutes. Okay? En communication politique, il faut que tu sois clair. C'est oui, c'est non. Puis tant que tu n'as pas décidé que ce serait oui, par exemple, est-ce que tu te représentes à la prochaine élection? Tu ne dis pas « j'y pense mm-hmm. ». Tu dis « oui, mon intention, c'est de me représenter ». Le jour où est-ce que ça ne te tente plus de te représenter puis que tu es prêt à l'annoncer, là, tu l'annonces. Mais sinon, mm-hmm. tu laisses place à la spéculation. Donc, le PQ, je les crois. Je pense qu'ils sont sincères parce qu'il y a cette impression que cette clarté-là et d'arrêter de traiter la souveraineté comme un boulet qu'on essayait de cacher, qu'on essayait d'alléger tout le temps, mais qui était tout le temps là, on a décidé de s'assumer. Et je pense qu'ils considèrent vraiment que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils sont sortis de leur torpeur, parce qu'on disait que le PQ était mort il y a 4 ans.
Ben, c'est ce que je pense qu'ils ont raison.
Bon, c'est ça. Fait qu'on continue dans cette voie-là du côté du PQ, puis on parlait, il y a un sondage qu'on a vu qui a été rendu public hier sur le non-désir d'un référendum. J'ai retrouvé des sondages pré-référendums
de 1980. Ah oui,
c'est pareil. Bon, attendez, je vous les sors. Là. Je les avais comme...
Là, on est en 80...
En attendant que tu sortes ça, là, je veux juste rappeler qu'on est dans le caucus Iaccarini. C'est du lundi au jeudi de midi à 12h30 avec Antonine Iaccarini. On parle présentement des intentions de vote au provincial. On va sauter aux intentions de vote au fédéral avec Mark Carney qui a perdu quelques points. Mais Antonine, qu'est-ce que ça disait, ces sondages-là pré-référendum?
Je suis en 93. 13. Okay. Donc, on est, tu sais, mettons, ça se pourrait qu'il y ait un référendum dans 2 ans. C'est réaliste si le PQ rentre au pouvoir. Est-ce que... en fait, c'est sur le oui ou le non, là, pas sur le référendum comme tel. On était à 38% pour, 50% contre, 12% d'indécis ou ne veut pas répondre. Donc, deux ans après, il y avait un référendum qui est arrivé presque à 50%.
C'est ça, là, on était à peu près à 36% là, lors des derniers sondages.
Donc, ça ne fait pas paniquer le PQ.
Donc, Mark Carney, la lune de miel, Mark le sauvé, Mark le sauveur face aux États-Unis.
Le Messie.
Bon. Légère baisse, peut-être pas de quoi s'inquiéter, mais on a quand même perdu 4 points au Québec.
Oui, puis c'est le Québec qui a beaucoup contribué à faire élire ce premier
ministre-là.
C'est le
Québec qui a fait élire parce que finalement, l'Ontario, les comtés qui étaient conservateurs sont restés conservateurs.
Exactement. Donc, il y a eu un engouement au Québec pour Mark Carney. Donc, on a une baisse de 4 % par rapport au dernier léger. Si on regarde les intentions de vote, 42 % PLC, 30 % Bloc, 21 % Parti conservateur du Canada, toujours un peu difficile, le Parti conservateur. Mm-hmm. Donc, c'est pas la panique à bord, mais il y a quand même un petit drapeau jaune qui se lève pour Mark Carney. Les attentes sont très élevées, les défis sont énormes, les déficits aussi. Donc, il va y avoir vraiment un défi énorme avec le prochain budget dont on a appris la date hier.
Ben oui!
Ça vaut pas vraiment la peine de commenter, mais je voudrais vous dire...
Oh, c'est un joli mot, ça! Un autre! On le connaît déjà, celui-là!
Le 4 novembre au soir!
Le quoi?
Le 4 novembre au soir!
Encore!
Le 4 novembre au soir! Le 4 novembre au soir!
Le 4 novembre au soir, on va avoir notre budget.
Bon, les gens qui connaissent pas ça, peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent.
Oui, c'est
qui
vraiment
disent, quoi c'est ça? C'est Jean Chrétien qui annonçait des élections fédérales et qui serait le 4 novembre au soir. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe le 4 novembre, moi, je hurle ça partout où est-ce que je suis.
Exactement.
Donc, le budget qui était censé être en octobre, en passant, a été repoussé début novembre. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ça? C'est qu'on travaille très fort pour essayer d'avoir un budget moins catastrophique. Je ne sais pas si François-Philippe Champagne, ministre des Finances, va réussir, mais on s'attend à des déficits monstres conjugués avec une austérité parce qu'on a demandé un effort de 15 % de réduction de dépenses dans tous les ministères paramétriques.
Là, ça me fait rire, ça, puis je suis d'accord avec Yasmine Adel Fadel qui mentionne l'austérité dépensière du Parti libéral du Canada.
C'est le pire des deux mondes.
Tu peux pas dire que t'es austère si t'arrives à 100 milliards de déficit, là.
Ben là, c'est ça. C'est que les libéraux ont un nouveau concept. comptable.
L'investissement.
C'est ça, c'est pas une dépense. Donc, il y a de ça à travers. En même temps, je pense que les gens appuient les investissements en ce moment en défense. C'est quelque chose qui n'a jamais été populaire, mais qui, en fait, depuis la guerre, probablement, et qui est redevenu populaire. Je pense que les gens sont capables aussi de comprendre qu'on est dans une crise sans précédent, qu'on était beaucoup à la remorque des États-Unis, qui était le pays plus puissant et plus riche au monde, puis c'était notre ami, ça tombait bien. Là, c'est plus notre ami. Donc, il y a des investissements, effectivement, là-dessus. Je vais leur donner. Mais cela dit, pour Mark Carney, d'avoir un budget où on a des déficits monstres et en même temps, on fait de l'austérité, tu as de quoi déplaire à tout le monde. Le NPD, est-ce qu'il va appuyer un budget avec de l'austérité? Puis est-ce que les conservateurs vont vouloir appuyer un budget avec des déficits de 100 milliards?
Clairement non. Fait que là, il reste à creuser le Québec. Ouais. C'est-à-dire le bloc.
Puis Stephen McKinnon, le leader parlementaire, donnait des entrevues pour la rentrée, puis il laissait pas beaucoup d'espoir qu'il allait donner des gros nananes au Québec. On verra bien si
François Blanchet. Ça tombera pas, par exemple, le gouvernement?
Bien, qui veut aller en élection,
c'est automne? Ouais, c'est ça l'affaire.
Puis là, je comprends, tu sais, on dit toujours que les Canadiens veulent pas aller en élection. En fait, on prend tellement la démocratie pour acquise qu'on trouve ça gossant, qu'on nous demande notre avis puis d'aller voter. Cela dit, c'est vrai que ça fait bien rien que 6 mois et on a eu une année absolument non productive à la Chambre des communes l'année passée. Donc là, on se dit, là, il faudrait peut-être qu'on adopte 2-3 lois, là, ici, là, c'est à un moment donné. Là.
Vincent qui écrit une chance que les libéraux ne sont pas mes banquiers, je serai en faillite.
Bien, quand tu ne dépenses pas ton argent à toi, hein, c'est sûr que c'est un peu différent. Parlant de budget.
Oui, vas-y donc.
Je voulais vous parler de votre budget. Non, je ne suis pas chroniqueuse économique, mais il y a une baisse du taux directeur. La Banque du Canada a annoncé ce matin une nouvelle baisse du taux directeur pour les taux d'intérêt. Ça fait une grosse différence hein, dans nos budgets familiaux quand on vient le temps de renégocier notre hypothèque. Clairement. Moi, je suis là-dedans, justement. T'sais, les gens qui ont acheté des maisons en pandémie, faites le calcul, ça fait 5 ans. Ding, ding, ding.
Hey, déjà.
Donc, mais ça, oui, absolument. On dirait que ça, c'était hier. En même temps, on dirait que ça fait 1000 ans. Donc, le taux directeur, on aurait pu... En fait, on se demandait... La plupart des économistes sont capables de vous dire, de vous prédire qu'est-ce que la Banque du Canada va faire, mais quand même, on est dans un moment spécial économiquement. Le taux directeur, quand l'économie ralentit, on le baisse. Donc, nous, les gens de notre âge, dans la tranche d'âge dans laquelle on se trouve, bien, on n'a jamais connu des taux d'intérêt très élevés. Quand j'ai acheté ma première maison, c'était 1 %
Moi
taux
aussi!
Taux fixe à 1 % extraordinaire.
Moi aussi, en plein crash boursier de 2008.
Et voilà!
Pour combien d'années?
5 ans.
Oui.
Donc là, tu es à veille de renouveler autrement.
Non, moi, je te parle de 2010. Là. Ça fait 15 ans de ça. Là. J'ai renouvelé plein de fois depuis. J'ai changé de maison. Cela dit, mon point, c'est qu'on n'a jamais connu ça, des taux d'intérêt élevés. Mais la génération de nos parents a acheté des maisons à 15, 18, 20 % de
mon
taux d'intérêt.
Mon grand-père, c'était au-dessus de 20 de mémoire. Ah, ils en parlaient. Mais anciens... les maisons valaient moins cher, sauf que...
Mes anciens beaux-parents, 19,8.
19,8?
Ils ont arrêté la construction. Ils construisaient à ce moment-là. On disait, hey, on n'a plus de cash.
Arrête,
on
sérieux?
Ouais. Mais tu rénoves pas, tu changes pas de maison quand les taux d'intérêt sont si élevés. Mais nous, c'est pas ça notre mindset, notre état d'esprit économique et budgétaire, parce qu'on a appris à consommer, à épargner, à dépenser avec des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. Ça coûte pas cher d'emprunter. Mm-hmm. Là, ça fait un peu mal sur le budget. Quand tu regardes tes mensualités avec un 2 % de plus, ça fait une bonne différence sur le budget familial. Là, en ce moment, bien... puis quand, normalement, quand l'économie s'emballe, l'inflation s'emballe, là, on monte les taux d'intérêt pour refroidir les ardeurs de la consommation. Donc là, si on suit la logique, on regarde les taux d'intérêt, pas les taux d'intérêt, pardon, le taux d'inflation a augmenté au mois d'août. Donc si le taux d'inflation augmente, normalement, ce qu'on ferait en temps normal, c'est qu'on monterait les taux d'intérêt ou les maintiendrait. Mm-hmm. Là, étant donné qu'on a en plus de l'inflation, une récession qui nous pend au bout du nez, on peut dire merci notamment à Donald Trump et à la crise commerciale. Là, on a de l'inflation et un spectre de récession, c'est ce qu'on appelle de la stagflation.
OK, tu m'apprends un mot.
Oui, bon, écoutez, là, je ne suis pas économiste, alors je m'arrête ici, mais tout ça pour dire que malgré l'augmentation de l'inflation, on a une baisse de taux d'intérêt parce que le spectre de récession fait plus peur et plus dangereux, finalement.
C'est ce que j'allais dire, ça annonce une récession plus qu'une économie qui va reprendre de son envol.
Oui, puis l'autre chose, c'est que je pense qu'on s'est un peu habitué à l'inflation. C'est plate
à dire.
Oui,
c'est vrai, t'as raison.
Donc,
ça fait depuis la pandémie qu'on dit « Ah, le panier d'épicerie coûte plus cher de mois en mois ».
C'est comme si c'était
comme le coût
de
l'essence aussi.
Ouais.
On s'en est peut-être pas débarrassé, puis on n'est peut-être pas habitué au niveau de ceux qui en arrachent concrètement, avec tout ce qui est produit aussi, les tarifs imposés sur les produits congelés, les canages, les ci, les ça, ça va monter dans les prochains mois. Puis il y en a qui en arrachent énormément. Je pense que dans les banques alimentaires, c'est peut-être là qu'on prend un retard où l'habitude n'est pas.
Puis il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'impact. Mais c'est vrai que l'économie, ce n'est pas juste rationnel. Il y a une question émotive là-dedans. Quand l'inflation se met à augmenter, quand nos prix se mettent à augmenter, souvent les gens vont même augmenter leur consommation, bizarrement, parce qu'ils se disent ça va augmenter encore plus. Donc, on contribue, en fait, encore plus à l'inflation parce que si on n'acceptait pas de payer ce prix-là, bon, il y a des choses qui sont essentielles, probablement que l'inflation serait moins grande. Mais bref, tout ça pour dire que surveillez ceux qui ont renouvelé leur hypothèque. Si jamais vous êtes capable d'attendre une autre baisse, on s'attend à ce qu'il y ait une autre baisse de taux d'intérêt, bien, enfin, on verra ce que ça donne. Cela dit, je refais un lien avec la politique maintenant, étant donné que je ne suis pas chroniqueuse économique, pour dire que face à nos politiciens, il y a quand même des attentes par rapport à l'économie. C'est la priorité numéro un des citoyens en ce moment, coût de la vie, pouvoir d'achat, économie. Et les gens ont soif d'avoir des résultats. C'est très dur pour les gouvernements à travers le monde, pas seulement chez nous, de voir que finalement, notre qualité de vie, est-ce qu'elle s'est améliorée dans les dernières années? Puis ça, c'est toujours la question qui tue en politique. Est-ce que ça va mieux maintenant qu'on a passé 10 ans de libéraux fédéral, 6 ans, 7 ans de CAQ au Québec? C'est les oppositions puis les partis qui viennent s'opposer puis essayer d'apparaître comme le changement ont le beau jeu dans ce temps-là.
En effet. Je te parle de quelqu'un qui tentait d'incarner le changement, mais qui a de la difficulté, Sam Ahmad. Et on écoute ce que Bruno Marchand avait à dire à son endroit hier lors de sa conférence de presse pré-conseil.
Monsieur Ahmad est contre tout. Il est pourquoi, on ne sait pas trop, mais il est contre tout. Ça, c'est clair. Il nous a parlé de son projet de mobilité une fois. Ça a soulevé mille et une questions. Il n'est jamais revenu pour répondre aux questions. Alors, il est contre tout. Les autres sont tous mauvais. Il y a juste lui qui est bon. Pourtant, depuis quelques semaines, c'est pas ça qu'on voit. Alors, ça y appartient.
Excuse-moi. C'est parce que ces temps-ci, je m'intéresse beaucoup à la communication non-violente. Et c'est pas de la communication non-violente.
Ah,
en tout
non,
cas,
non.
Il est contre tout. Il ne donne aucune réponse. On est vraiment dans les absolus.
Oui. Ça va pas bien depuis quelques semaines. Donc, exactement. Sam Ahmad, hier, qui a demandé l'arrêt des travaux du tramway le temps que l'élection se fasse, en mentionnant que ce serait une élection référendaire sur le tramway. Il avait pourtant promis qu'il ne ferait pas ça. Jonathan Julien lui a lancé une pierre dans son sac ce matin en arrivant au Conseil des ministres en disant non, on n'arrête pas ça, les travaux du tramway. On avance, go, la CDPQ infra est là, puis c'est assez le niaisage. Sam Ahmad, viens-tu complètement de se planter avec cette sortie publique-là hier?
Je pense pas. Parce que quand on regarde les sondages, il y a une bonne partie de la population encore qui est contre le tramway.
T'as raison.
Les acteurs clés, les acteurs politiques sont en ce moment relativement alignés. La ville, la province, tout le financement, la caisse, la CDPQ infra. Donc, on a cette impression que là, on y va, on avance. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a une partie de la population encore importante qui est contre, et pas rien qu'un peu, là, très, très contre le projet. Donc, lui, il fait de la politique, là. Puis il veut se faire élire. Donc, il veut capitaliser sur cette colère-là. Par contre, pour tous les gens, c'est ça, qui ne sont pas nécessairement excités tant que ça par le tramway, puis qui n'ont pas pris leur carte de membre du club des chars ou du club du transport collectif.
Je fais partie de ceux-là.
Bien, moi aussi. Pour vrai, j'achète l'argument de Jonathan Julien. Ouais. Et j'achète pas tout ce que Bruno Marchand a dit.
Mais j'ai pensé à toi en entendant ça, parce qu'hier, au caucus, il y a Karine,
exactement
disais,
ce qu'on disait.
On est tanné. Il n'y a rien qui avance. Puis si on arrête ça maintenant, malheureusement, il va peut-être faire en sorte qu'on va devoir faire avec, pour utiliser l'expression, parce que sinon, on se rembarque dans des projets, on s'extensionne de 10 ans, il n'y a rien qui se passe.
Puis Bruno Marchand a été élu quand même à la dernière campagne électorale en étant pour le tramway.
Oui.
Sam Ahmad apporte un bon point. C'est vrai que Bruno Marchand a dit « je vais faire plein de modifications au projet ».
Oui, il avait mis des conditions, puis dans les conditions, il y avait l'acceptabilité sociale
qui n'est pas là. Par contre, il y a eu un rapport de la CDPQ Infra sur la mobilité à Québec. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Et là, il y a un alignement d'étoiles qui est important. Puis moi, je me dis « aboutissons à quelque chose ». Je me suis posé la question. Combien d'argent on sacrerait dans les vidanges? Je n'ai pas le calcul avant que tu me le
demandes. Oui.
Mais est-ce qu'on va sacrer de l'argent dans les vidanges si, par exemple, Sam Ahmad gagne sa campagne, et là, on met fin aux travaux du tramway. Puis c'est des travaux qui sont commencés, là.
J'ai une réponse pour toi. Je te dirais que, tu sais, normalement, quand l'élection va avoir fait, c'est au-dessus d'un milliard de dollars qui va avoir été dépensé dans le projet. Ceci dit, il y a énormément de travaux qui sont souterrains qu'il aurait fallu que la ville fasse.
De toute façon.
Par contre, si tu arrêtes le projet, le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral, bien, le fédéral n'a pas encore décaissé parce que c'est sur facture. Le gouvernement du Québec va-tu dire, hey là, écoutez, je viens de payer vos infrastructures souterraines, je ne les ai pas payées aux autres villes. Décaisse puis amène ça là.
Sa maman,
sa prétention, c'est de dire non, je vais négocier avec le gouvernement. C'est pour ça aussi qu'il est arrivé avec un SRB parce que dit le SRB avait besoin des mêmes travaux souterrains que le
Et
tramway.
Voilà. Ça, c'est pas faux. C'est-à-dire que, tu sais, je regarde par exemple sur Laurier, travaux préparatoires, oui. On élargit. C'est sûr que si on fait des travaux pour un SRB, ça peut pas servir pour un tramway, parce que le tramway, c'est plus compliqué. Mais si tu fais des travaux pour le tramway, ça peut servir pour le SRB. Oui. On aura peut-être un peu d'overkill, par contre, sur ce qui a été fait.
En plein ça. Et le SRB est sur une dalle de béton. Donc, si dans le futur, tu veux transformer ça en tramway, tu as juste des rames à mettre et c'est fait. C'est pour ça qu'il se lance dans le SRB, Samamad, parce que je sais qu'il y a beaucoup de partisans tramway no way qui disent... Respect citoyen, Stéphane Lachance, lui, il propose juste des autobus. C'est ça que je veux. J'en veux pas anyway de transport structurel. Mais dites-vous que si on arrête tout, c'est $1 milliard qui est en jeu.
Non, c'est ça. Donc, si votre argument principal, c'était l'argent, là, on est rendu à un point où il faut arrêter. Là, parce que chaque délai, chaque débat qui recommence, on continue de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc ça, si c'est ça votre argument, arrêtez. Si votre argument, c'est que ben vous êtes contre le transport collectif, ben là, je veux dire, à un moment donné, il faut arriver en 2025.
Bien, à un moment donné, il va y avoir du transport collectif, c'est clair. Moi, je l'ai toujours dit, je suis un partisan du SRB. J'étais au RTC au moment où on avait justement planifié le SRB, traversait même via le pont de Québec, allait rejoindre jusqu'au complexe Desjardins-Lévis. Je trouvais que c'était un projet extraordinaire. On passait par Lac-Charest, on développait cette verrue urbaine-là. Je trouvais ça super beau. Donc moi, quand ça me revient qu'un SRB, j'ai tendance à être pour parce qu'on va desservir les banlieues. Mais ceci dit, là, je ne voterai pas en fonction SRB tramway. Je vais voter en fonction du plan global parce que il va en avoir un système. Il y a des experts de la CDPQ Infra qui sont penchés, qui ont dit ça prend le plan cité, pas juste cette ligne de tramway-là. Mais à un moment donné, là, je ne me battrai pas contre l'irréparable. Si ça se fait, ça se fera, puis ça sera comme ça.
Puis un contrat aussi qui a été signé sur le matériel roulant, là.
Exactement, avec Alstom. Ça aussi, c'est de l'argent qu'on n'a pas encore décaissé, mais un contrat de 584 millions de dollars, il y aurait des pénalités. Donc, en effet.
À suivre, mais bref, je trouve que ça commence à être assez de niaisage.
Oh, vraiment, faut arrêter de faire une élection référendaire. Ça a été fait en 2021. Ça, je suis d'accord avec Bruno Marchand. Ça a été fait en 2021. 2025, votez pour la plateforme en entier des candidats municipaux, selon moi, ça va être un meilleur vote que de le faire. Je veux-tu un tramway, j'en veux pas un.
Je pense que les gens sont encore aigris, ou encore ce qui reste, c'est le fait de se dire, OK, finalement, on nous l'a enfoncé dans la gorge. Oui. Et ça remonte à
bon
Anne Guérette et Régis Labombe qui s'obstinent, Régis Labombe qui la traite de vieillerie avec son tramway.
T'as 100% raison.
Finalement, je pense que c'est ça qui est resté dans
les
entrailles.
Je pense qu'il faut qu'on fasse notre deuil, OK?
On n'a pas le choix.
C'est fait.
On s'est fait avoir, tiens, pour ceux qui ne voulaient pas ça.
Soyez fâchés si vous voulez. Puis vous pouvez. En passant, on vous dit pas pour qui voter, hein?
Non.
C'est pas ça. Puis si vous voulez voter avec votre colère, puis vous, il n'y a aucun problème.
Écoutez, moi, depuis le début, je vous dis juste, allez au-delà un peu de votre colère, puis regardez les programmes. Puis vous voterez pour le meilleur programme.
Absolument.
Ça se peut que ça soit Stéphane Lachance, ça se peut que ça soit Claude Villeneuve, ça se peut que ça soit Jackie Smith, Bruno Marchand, Sam Hamad. Mais votez pour ça, de grâce. Sortons de cette chicane-là.
Bien dit.
Parlant de chicane, il va peut-être en avoir à la commission Galant parce que c'est enfin l'enfant prodigue de la transformation numérique, celui sur qui on aurait dû compter et croire tous les mots qu'il a dit, c'est-à-dire Karl Malenfant. Et je te laisse entendre avant de parler de Karl Malenfant. Nathalie Tremblay, l'ex-PDG de la SAC, à la commission Galant tout à l'heure lorsqu'elle a fait cet aveu-là.
Je n'ai pas le recul nécessaire pour répondre à cette question. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de faire la part des choses. J'ai besoin de continuer de suivre vos travaux pour être en mesure de changer cette réponse s'il y a lieu. Donc, aujourd'hui, avec ce que l'état dans lequel je suis aujourd'hui, ma réponse demeure qu'au 14 janvier 2022, lorsque j'ai quitté pour la retraite, j'avais confiance en Karl Malenfant.
J'ai de la misère avec ça.
Est-ce qu'on y croit?
Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Ben, fait, là. Parce que là, elle dit, il faut que je prenne du recul, tout ça. Premièrement, je veux dire, ça fait longtemps, ça fait depuis le printemps passé qu'on sait qu'il va y avoir une commission.
Oui,
t'as été PDG, tu vas être convoqué, excuse-moi, le recul, t'aurais dû...
Clairement, on comprend qu'elle savait de l'info depuis aussi. Là.
Ben oui, là. Donc, mais en même temps... C'est quoi, stratégiquement, là, mettons, vous êtes, on n'est pas avocat, là, mais mettons, on est ses avocats puis on la prépare. Là. t'es aussi bien de dire que t'avais confiance. Parce que c'est ta seule défense.
C'est vrai. Dans le fond, t'as raison.
T'sais, qu'est-ce qu'elle peut dire d'autre? C'était sous sa responsabilité. Elle était imputable.
Parce que sinon, elle dit « j'ai été incompétente, j'ai pas assez poussé ».
Donc voilà.
Alors, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle avait confiance en Karl Malenfant.
C'est la moins pire des défenses, à mon avis, pour elle. Donc, on surveille ce témoignage de Karl Malenfant. On a eu des bons indices dans les dernières semaines, derniers mois, sur ce qu'il allait dire de toute façon, parce qu'il a fait beaucoup d'entrevues, il a fait des publications sur les médias sociaux. Est-ce que le juge Galland va beaucoup le challenger? Là, c'est sûr, le procureur, oui, mais ce matin, j'écoutais l'ancienne PDG et est arrivée avec un paquet de recommandations. Elle a besoin de recul pour parler de Karl Malenfant, mais elle avait déjà pris pas mal de recul sur les recommandations qui devaient être dans le rapport. Il y en avait des bonnes en passant. Okay? Elle avait quand même des bons points. Mais le juge Galland l'a challengé sur plusieurs choses. Il n'achète pas tout ça en bloc.
Non.
Donc, est-ce que le juge Galland va aussi, disons, être... j'ai pas envie de dire impatient, mais j'ai juste des gros mots qui me viennent en tête. Mais il en laissera peut-être pas beaucoup passer avec Karl Malenfant.
Je pense que justement, ça va être... Moi, je m'attends à une petite empoignade. Une ou deux petites empoignades entre Karl Malenfant, qui a un égo démesuré, et le commissaire Galland.
Mais je pense que les gens s'attendent à ça. S'il ne fait pas ça, le commissaire Galland va se le faire dire aussi. Mm-hmm.
Peut-être, mais il est censé être quand même assez imperméable à l'opinion publique. Donc moi, je pense qu'il va y aller avec son cœur et sa tête. Voilà.
Alors ça va être à suivre. On en parle évidemment dans le caucus. Iaccarini demain. Antonine Iaccarini, merci beaucoup.
À demain.
Après la pause, on a un homme extrêmement généreux qui vient s'asseoir avec nous, c'est-à-dire Pierre-Thomas Choquette de la famille Choquette, qui a parti une campagne de financement qui va permettre à des personnes itinérantes de trouver un toit. Ils ont ramassé plus de 3 millions de dollars, Pascal. Fait que dans cette ère d'actualité un petit peu plus négative, avait le goût qu'on se paye du bon temps avec Pierre-Thomas.
3 millions! C'est énorme! Ça me fait capoter.
3,2 millions.
Puis je veux savoir si demain, là, nous, on réussit à ramasser cette scène-là. Ouais. Premièrement, il a réussi. Est-ce qu'ils ont demandé à avoir des ventilations de ce qui va être fait avec le 3 millions? Est-ce qu'ils veulent un droit de regard parce qu'ils ont réussi à amasser ces sommes-là?
On regardera ça avec
Pierre-Thomas. Ça va être intéressant.
Ah, vraiment. Et par la suite, tu nous as préparé également un dossier, Pascal, parce qu'on va parler d'emploi ici dans la région de la Capitale-Nationale.
Et d'économie en général. Ouais. Est-ce que nos secteurs d'activité sont actuellement en danger aussi avec les tarifs? Mm-hmm. Est-ce que ça continue de rouler?
Ça va être très intéressant à suivre. Donc, restez des nôtres à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Radio! Boulevard 102.1.
Dans quelques instants, à l'émission, on parle avec quelqu'un qui a une grande générosité, qui a envie d'aider là, dans son quotidien ici, les gens de la région de Québec, les gens qui en ont besoin. Mais il y a aussi un endroit qui s'appelle Hébergement Rive-Nord qui fait ça au quotidien. Fait que si tu dis « Hey, moi, financièrement, c'est pas le cas », mais par contre, je pourrais donner mon temps puis être rémunéré pour ça. Hébergement Rive-Nord, c'est une entreprise qui a 5 ressources intermédiaires. Puis on héberge des résidents qui présentent une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. Ça t'a toujours appelé finalement d'aller travailler auprès des gens, faire une différence dans ce quotidien-là, de gens qui ont besoin de se faire aider, d'être bien entourés, bien, c'est la place pour toi. On a fondé en 2015 Hébergement Rive-Nord, puis c'est une équipe qui est continuellement à la recherche d'innovation. On veut améliorer la qualité de vie, la qualité des soins aussi pour les bénéficiaires. Il n'y a rien qui tombe entre deux chaises. On est vraiment une équipe passionnée, dynamique. On est composé d'éducateurs spécialisés, d'intervenants en délinquance. On a des travailleurs sociaux. On a plein de gens qui veillent au bien-être des résidents et aussi, et là, je mets du surligneur là-dessus, à leurs collègues. Donc, la bienveillance, l'entraide, le fait d'être heureux d'aller travailler, c'est appliqué chez Hébergement Rive-Nord, puis on en fait là, une priorité parce qu'on a l'impression et on croit au fait que ça a une résultante sur nos bénéficiaires et sur aussi le taux de rétention, la qualité de personnes qui viennent travailler dans nos centres. Donc, on travaille très fort là-dessus, puis on intervient auprès de la clientèle, entre autres avec l'amélioration des milieux de vie, animer des activités auprès de la clientèle, puis veiller au bien-être des milieux de vie aussi. Si ça te parle, ça t'intéresse, si tu es une personne bienveillante qui a envie de, au quotidien, faire un changement dans ta vie et dans celle des autres, va sur la page Facebook d'Hébergement Rive-Nord.
Depuis plus de 30
ans, on jase.
Je préviens, on jase.
On jase et on aime beaucoup ça, jaser. Midi 40 à la météo, c'est 24 degrés aujourd'hui, généralement ensoleillé. 24 degrés demain, 30% de possibilité d'averse et 17 degrés pour vendredi. Pascal, il y a des nouvelles dans deux dossiers policiers.
Oui, je suis extrêmement surprise de vous lire cette nouvelle-là. Vas-y, c'est un peu du jamais vu, mais on cherchait un motocycliste. On n'avait pas de nouvelles de motocyclistes dans la cinquantaine depuis quelques heures, depuis mardi soir.
Okay.
Et là, il a été retrouvé, mais malheureusement dans un état critique. Ça s'est fait aujourd'hui à Stoneham. Alors, à 9 h ce matin, la Sûreté du Québec a été avisée qu'il y avait un résident de Québec qui était parti en moto mardi soir, qui n'était pas rentré chez lui tel que prévu. Et là, c'est son fils qui a alerté les autorités. Il y a eu l'aide de la triangulation, vous le savez, avec les tours cellulaires. Là.
Oui.
Puis dans le secteur, on a été capable de voir que la moto était localisée dans un fossé en bordure de la route Tewsbury à Stoneham. Là, il est dans un état très critique à l'arrivée des policiers. On est là-dedans. Il y a une enquête en cours. La victime était inanimée près de sa moto. C'était dans le secteur de boisé avec des herbes hautes. Donc, c'était pas visible de la route. Je trouve ça absolument tragique. Là. On est sur place pour analyser la scène. Mais bon, ce qu'on prétend, c'est qu'il aurait fait une embardée quand il circulait dans la courbe. Là. Puis l'implication d'un autre véhicule est quand même dans la thèse. Puis la thèse du geste volontaire n'est pas écartée non plus. En fait, tout est un peu dans le carton en ce moment.
Alors, on va en savoir plus normalement dans les prochaines heures, prochains jours.
On va suivre ça, entre autres pour la famille. On pense à eux.
Vraiment.
Arrestation pour une série de vols à Québec et Lévis. Donc, il y a 3 individus qui ont été arrêtés pour une série d'introductions par effraction dans les commerces de Lévis et de Québec. Ils auraient tenté, entre autres, de voler au moins 2 véhicules. C'était une enquête qui avait été lancée par le service de police de la ville de Lévis. Puis là, on est en train de résoudre 8 dossiers là, avec tout ça. Puis les policiers se penchent sur les événements depuis plusieurs jours. Donc, on travaille très fort. Événement qui serait survenu entre le 28 août et le 14 septembre. Et ça menait aussi à des perquisitions donc dans des logements, entre autres sur le boulevard Charest-Ouest puis Marie de l'Incarnation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 hommes de 44 ans qui ont été arrêtés. Ils vont comparaître au palais de justice de Québec. Ils font face à des accusations d'introduction par effraction, de vol de plus de 5 000 $ de vol de véhicule, possession d'outils de cambriolage, possession de biens criminellement obtenus et non-respect des conditions de probation. Alors, peut-être qu'on est un petit peu connu des policiers
à
ce niveau-là. 3e homme, 46 ans, il a été arrêté puis libéré au terme de son interrogatoire. Clin d'œil à cet homme qui s'introduisait par effraction du côté de Chicoutimi-Nord. On a trouvé l'homme en train de faire la vaisselle puis une brassée de lavage.
Oui, on en a parlé ce matin.
Écoute,
dans Marceau. Il s'était chicané avec son conjoint. Il est entré dans le garage. Il s'est installé là, finalement. Quand il m'a allé faire la vaisselle, je vais laver mon linge.
Écoute, il se réveille qu'il y a quelqu'un chez toi qui est en train de faire le ménage. Ouais. T'appelles les policiers. Ben, c'est ce qui s'est passé à Chicoutimi-Nord. Juste mentionner rapidement, Blainey, qui veut un troisième lien à l'Est. On ramène la question ce matin.
Par l'île d'Orléans.
Oui, ça passerait par
l'île sur la proposition d'Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec. Donc, ça va être à suivre.
Et je vous rappelle que c'est un candidat à la mairie de Lévis.
Yes, pour Prospérité Lévis. Parlant de gens qui se cherchent un toit, on est tous très préoccupés par la crise de l'itinérance partout au Québec, notamment à Québec, ici, à Saint-Roch. Cette itinérance est de plus en plus visible. Et il y a une famille qui a décidé de prendre le tout en main en lançant une campagne un toit avant tout. Et ils ont annoncé aujourd'hui avoir amassé 3,2 millions de dollars.
Quelle enveloppe!
Pascal, tu rêves pas, là. 3,2 millions de dollars.
100 000, c'est beaucoup. 3 millions, c'est énorme là, dans la crise actuelle.
Et on a la chance de recevoir Pierre-Thomas Choquette, qui est un des initiateurs de la campagne avec la famille Choquette, sa famille. Pierre-Thomas, comment vas-tu?
Ça va très bien. Merci de me recevoir.
Hey, ça fait plaisir. Pierre-Thomas, comment est venue l'idée, en premier lieu, de dire « Hey, la famille Choquette, on va combattre l'itinérance. »
Ben, c'est venu d'une conversation entre mon père et le maire Bruno Marchand, dans lequel mon père puis toute notre famille, on s'implique dans différentes causes, puis il a levé la main, il a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'itinérance? C'est en croissance, on peut-tu aider? » Puis c'est des discussions qu'on avait en famille aussi. Hein. T'sais, quand j'étais jeune, mon frère a déjà challengé mon père sur le fait qu'il n'avait pas donné d'argent à un itinérant sur la rue. Puis c'est arrivé avec mes propres enfants aussi. Okay. On sortait du restaurant. Pis... Fait que ça laisse personne indifférent à l'itinérance. Toutes les causes sont bonnes. C'est une cause qui est difficile à approcher, à aborder.
Mm-hmm.
Donc pour nous, c'est un défi. Puis on s'est dit, ben, je pense que là on a les moyens de rattraper la situation dans notre milieu de vie, dans Québec, faisons-le.
Est-ce que vous vivez dans des secteurs névralgiques où vous en constatez, ou est-ce que ça aussi, ça a été abordé, ou c'était parce que, à la mairie de Québec, on a mis ça de l'avant, cet enjeu-là, que vous êtes vraiment entré dans le bassin pour aider?
Oui, on ne vit pas nécessairement dans les milieux les plus névralgiques, mais dans nos milieux de vie, on en a vu, puis on a eu des voisins qui ont eu des situations. Fait que, tu sais, c'est pas juste par le vécu, c'est aussi parce que on est privilégié d'être né à Québec. Il y en a qui sont nés en Ukraine, il y en a qui peuvent être nés ailleurs dans le monde. Il y a un peu une loterie de la vie. Québec est déjà quelque chose de bien. Puis tu sais, quand on dit qu'on peut se promener à toute heure du jour ou presque dans Québec, puis on se sent en sécurité, qu'on soit en famille ou tout seul, ça a une valeur. Puis pour nous, il fallait conserver cette valeur-là. Cette valeur-là est un peu en se fait un peu... Il y a un peu de déséquilibre dans certains secteurs, dont Saint-Roch. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut prendre les choses en main.
Là, vous avez fait une campagne, vous avez lancé une campagne, un toit avant tout. J'étais à votre conférence de presse au mois d'avril dernier, lors du lancement. Vous venez d'amasser 3,2 millions de dollars. C'est qui les donateurs types, justement? Quelle personne dit, hey, moi, je vais donner à cette campagne-là, je vais donner à la famille Choquette?
Bien, premièrement, je suis très fier de dire qu'on a dépassé notre objectif de 3,2 millions de dollars.
Hein? On a rendu à combien?
On s'enligne vers le 4. On a dépassé 3,8. Puis là, j'espère qu'il y a quelques familles qui m'écoutent, qu'on a rencontrées, qu'on attend des réponses. Mais si les trois dernières nous disent 8, oui, on a le 4 millions.
Incroyable.
Alors, pour en revenir à la question, on a fait une campagne différente. Qu'on fait, là, on en a fait pour plusieurs autres causes. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de faire un cabinet de campagne, c'est une famille qui sollicite. Puis on s'est mobilisé en famille. Donc, on a sollicité des familles. On est allé à la rencontre de gens avec les parents, les enfants, puis parfois les petits-enfants. Notre premier objectif, ça a été de sensibiliser sur la situation à Québec, de sensibiliser les gens sur l'importance de la philanthropie, de s'impliquer dans notre ville et de redonner. Puis ensuite, de parler de notre projet puis de demander aux gens de contribuer. Alors, on a 26 familles qui ont contribué pour 100 000 $ sur une période de 4 ans, puisque notre campagne vise à aider, je vous l'expliquerai un peu plus tard, sur une période de 4 ans. Là, c'est pas une campagne ponctuelle sur un an, c'est échelonné sur 4 ans.
Puis les versements de ces familles-là vont se faire aussi sur 4 ans.
C'est ça. Fait que 25 000 par année pendant 4 ans pour une contribution de 100 000 $ On a eu aussi une centaine de dons du public qui est arrivé via le site web. Puis bien sûr, on est allé voir certaines communautés religieuses, des organisations, des institutions qui ont dit, quand on voit la liste de familles qui s'impliquent dans la communauté puis qui veulent que ça change, on va donner de l'argent, mais on n'a comme pas le choix d'être là pour dire qu'on appuie les gens de la communauté.
Bravo.
J'ai une question par rapport à cet encadrement financier-là. Parce que souvent, on dit c'est pas juste une histoire d'argent, c'est une histoire d'aller chercher les bonnes ressources. À qui on donne cet argent-là? D'avoir un certain suivi sur ce qui se fait. Avec l'enveloppe extraordinaire que vous avez ramassée, avec l'implication de plein de familles d'ici, finalement, est-ce qu'il va avoir un besoin de ventilation de comment c'est géré? Est-ce que vous voulez garder un genre d'œil d'intérêt sur où est-ce qu'on va aller déposer de l'argent? Où est-ce qu'on va aller investir pour aider à cette cause-là? Je pense que ça, c'est souvent là où le bas blesse.
Mais premièrement, notre campagne est dédiée à un programme spécifique qui existe déjà, qui s'appelle le programme Porte-Clés. Le programme Porte-Clés existe depuis 2015. Ça regroupe 9 organismes de la communauté de Québec. Ils travaillent en cogéalité ensemble. Puis depuis 2015, ils ont sorti environ 50 itinérants de la rue où qu'ils leur apprennent à manger, à se laver, à avoir des interactions avec les autres, leur trouve un emploi, un logement, jusqu'à temps, puis il y a un suivi qui se fait dégressif,
constant.
Jusqu'à temps qu'ils soient autonomes. Taux de succès, 85 %. Ça nous parlait.
Très fort.
Ça nous parlait. Pour nous, on ne cherchait pas. Il y a des solutions temporaires et d'urgence qui sont essentielles, mais nous, on voulait investir dans quelque chose qui allait avoir un résultat définitif et pérenne. Alors là, déjà là, l'argent est centralisé là, puis on s'est adjoint aussi d'une fondation privée qui s'appelle la Fondation Dufresne et Gauthier, une fondation familiale de personnes qui sont déjà... une fondation existante qui est déjà reconnue, mais qui n'a jamais sollicité. Fait qu'on n'est pas en compétition contre les centres aides de ce monde-là. Mm-hmm. On vient ajouter, parce qu'il y a plein d'autres organismes qui sollicitent pour ça, puis on ne voulait pas être en compétition, on voulait faire une campagne dédiée. C'est la première campagne dédiée privée à l'itinérance au Québec.
Wow,
fait que c'est une première. Donc, avec la Fondation Dufresne et Gauthier, c'est eux autres qui sont responsables de la rédiction de comptes, de s'assurer que les sommes vont aux bonnes places puis que le programme porte-clés va doubler. Parce que nous, notre objectif, c'est pas de 100 personnes par année, c'est pas 50 personnes par année, c'est 100.
Fait que
nous,
on va doubler. Arrête d'écrire en société.
Exact. Ouais. Fait que nous, on permet à porte-clés de doubler sa capacité en émettant 800 000 par année sur 4 ans, donc d'où le 3,2 millions.
C'est incroyable. On parle avec Pierre-Thomas Choquette avec sa famille, initiateur de la campagne Un toit avant tout, qui vient d'amasser, je vais le dire, 4 millions de dollars pour l'itinérance. L'itinérance, c'est une crise provinciale. On en parle de plus en plus, même dans des régions comme Rimouski, Gatineau, qui en est victime également énormément. Est-ce que la lutte à l'itinérance va passer par la philanthropie comme vous êtes en train de faire, compte tenu que les gouvernements ont de moins en moins d'argent?
Ils ont de moins en moins d'argent. Je pense que la philanthropie puis la mobilisation de la communauté est importante. Puis ça envoie aussi un signal clair. Moi, à la fin août, on est allé rencontrer en famille Lionel Carmal, le ministre responsable des services sociaux. On lui a montré la liste des familles qui ont contribué, des organisations qui ont contribué. C'est sûr qu'il a fait « OK, les gens dans la communauté ne veulent s'attaquer au problème d'itinérance. Ils veulent le vaincre. » Alors, il a levé la main, il a dit qu'il allait nous aider sur faciliter l'accès à plusieurs logements. Déjà qu'on avait, on s'était garanti certains logements. Là, il va l'augmenter. Puis, il s'est avancé à dire que le gouvernement soutiendrait notre initiative à partir du prochain budget. Donc, on travaille là-dessus.
Ça veut dire soutenir votre initiative? Ça veut-tu dire venir donner le même montant, venir rajouter un 4 millions?
Écoutez, les bases ne sont pas mises, mais il y a deux volets à ça. Là. On veut de l'argent pour peut-être avoir une troisième équipe, une quatrième équipe.
En effet.
Élargir le territoire, mais surtout augmenter la pérennité. Là, on s'est engagé pour 4 ans, mais là, tout le monde nous dit « qu'est-ce qui se passe après 4 ans? »
C'est vrai.
Fait que là, on dit au gouvernement « là, on a fait un bon bout de chemin, on vous passe la POC. »
J'ai une question par rapport aussi à votre attente là-dedans. Votre attente avec un grand A, là, je vais le dire, parce que on voit que la situation s'amplifie. C'est pas facile. Là, on veut réintégrer les gens en société. C'est extraordinaire. C'est par là que ça passe, là, vraiment, le fait de s'en sortir avec l'itinérance. Est-ce que vous en avez au moins une attente très claire dans ces changements-là que vous souhaitez voir apporter dans la Ville de Québec, au-delà de votre implication? Voulez-vous que la mairie suive? Voulez-vous qu'on en parle plus? Vous attendez à quoi?
Bien, la mairie est là, dans le sens qu'ils ont mis 200 000 par année, donc 800 000. Donc, ils contribuent à ça, puis c'est important. Notre attente principale, c'est de diminuer la courbe. Selon les statistiques qu'on a de la Ville, c'est qu'il y a environ 60 nouveaux itinérants par année.
Par année?
Grosso modo, à Québec. Si on double la capacité actuelle du projet porte-clés de 50 à 100, bien là, on est capable de renverser la tendance. Fait que si on a réussi à renverser la tendance, c'est une attente, c'est un objectif qui est pour nous, qui est réaliste, qui est atteignable.
Pierre-Thomas, je te lis un texto en terminant. Je salue cette initiative. Bravo en travaillant dans le milieu de l'itinérance depuis plus de 20 ans. C'est un méchant bon move. La seule question que je me pose en faisant ce genre de campagne-là et en parlant avec le ministre Carman, est-ce que ça va encourager un désistement du gouvernement dans cette lutte? Je crois pas que ça va amener un désengagement. Au contraire, je pense que si des familles comme vous le prenaient en main, ça force le gouvernement à faire plus.
Totalement d'accord avec vous. Puis là, il a été épanoui par le projet. Il en parle lui-même. Puis on se parle assez souvent maintenant. Fait que je pense que ça va donner des suites. Puis il n'y a pas le choix. Là, les gens qui ont embarqué, c'est si la communauté le veut, si la communauté s'implique, s'investit puis contribue, bien, ça en devient une priorité.
Si on change de direction au niveau de la ville, si les prochaines élections amènent un nouveau chef pour Québec, vos attentes? Quelles sont-elles?
Nos attentes ne changent pas. Nous, notre entente avec la ville est avec la ville et pas avec un parti politique
Très
ni
bon
avec
savoir.
Un maire.
Très Parfait. Bon
Donc, nous, on s'est assuré qu'on allait pouvoir continuer, mm-hmm. peu importe ce qui allait
Superbe.
Se passer.
Superbe.
Cool. Pierre-Thomas, félicitations.
Vraiment.
Merci à toute ta
merci.
Famille pour l'implication.
Merci à vous puis merci d'en parler parce que plus on en parle, bien, plus c'est de même qu'on va réussir à solutionner.
Ça fait énormément plaisir. Des initiatives citoyennes comme toi et ta famille faites, on en veut de plus en plus dans notre société. C'est ensemble qu'on va grandir et qu'on va réussir à régler ces problèmes sociétals-là.
Merci
Félicitations. Fait plaisir. C'était Pierre-Thomas Choquette, un des initiateurs de la campagne Un toit avant tout. Pascal, c'est extraordinaire, ça.
Moi, je suis vraiment contente de voir ça. Une implication de gens au privé qui se disent hey, là, nous, on ne va pas attendre après toute l'administration politique. On va aller de l'avant puis on va aller consulter les familles ici
oui.
à Québec qui peuvent donner. Mais surtout, là, le moment, là, moi, qui était crucial dans cette entrevue-là, c'est de savoir où est-ce qu'on allait investir. Puis c'est mm-hmm. clair.
C'est clair.
Ils ont un plan. Ils ont des attentes. Pour moi, ce projet-là ouais. est ficelé. Il me fait vraiment triper. J'espère qu'on va avoir les retombées, pas économiques, les retombées sociales espère. Mais félicitations.
Ah, félicitations, certains. Ça vient d'une initiative personnelle de la famille Choquette. Alors, ça me touche énormément que des gens aient le cœur à la bonne place comme ça. Ils décident de faire du bien pour la communauté. Parlant de communauté, Pascal, t'as rencontré une personne pour ce qui est de... l'emploi, l'économie pour la région de Québec, ça va être un thème très fort de la prochaine campagne électorale.
Et ce l'est déjà. On regarde n'importe quel palier gouvernemental, puis je pense que ce qui fait le plus jaser, c'est l'économie.
Clairement.
C'est les perspectives économiques, d'employabilité. On savoir, bon, le salaire minimum va être à combien, le salaire moyen va être à combien. Est-ce qu'on va être capable de subvenir à nos besoins? Et quelle est la possibilité de travailler aussi dans la capitale nationale et en Chaudière-Appalaches. Je me suis vraiment concentrée sur notre région et il y a Statistique Canada qui a sorti des chiffres. Ça a été publié hier sur le nombre de postes vacants dans les régions, okay, combinées de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Ça, c'est une chose. Ça a légèrement varié, mais je me suis dit, ben, je vais aller plus loin parce que les postes vacants, moi, j'ai ça, là, capitale nationale, on a environ 11 000.
Ouais.
Chaudière-Appalaches, environ 6 000. Donc, il y a des emplois, mais malgré tout, ça roule. Employés salariés, on est environ à 375 000 dans la capitale nationale. C'est une perte de 5 % environ et 200 000 en Chaudière-Appalaches. Le taux de postes vacants, 2,9 % dans la capitale nationale et 2,8 % en Chaudière-Appalaches.
Quand on regarde ça, c'est quand même assez minime.
C'est quand même assez minime. Mais moi, je voulais me pencher sur... à quel point on est résilient en ce moment dans la situation économique. Et pour ce faire, j'ai parlé à une économiste qui s'appelle Rosalie Forgue. Cette économiste-là travaille pour Québec International et elle me parle justement du positionnement de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches.
D'un marché de l'emploi, puis d'une économie en général qui montre des forces signes de résilience et de compétitivité à travers la province et au niveau canadien également. C'est sûr qu'on peut pas faire une analyse strictement globale de la situation pour les deux régions administratives. De part et d'autre du fleuve, il y a des différences substantielles qui demeurent présentes.
Et veut savoir aussi, c'est quelle strate de la population qui est le plus à risque en ce moment? Est-ce qu'on parle de la jeunesse? Est-ce qu'on parle de la population active qui est jusqu'au 55, mettons 35-55? Ou encore de cette, peut-être strate un peu plus senior, qui est plus à risque au niveau de l'emploi?
Présentement, on ne peut pas nécessairement parler d'une tranche d'âge qui est favorisée par rapport à une autre, mais plutôt une qui a plus de difficultés au niveau de l'intégration sur le marché du travail. Donc, présentement, les jeunes de 15 à 24 ans ont un taux de chômage qui s'établit à 9,4 % selon l'enquête sur la population active, ce qui est plus élevé que la population dans son ensemble, où est-ce que le taux de chômage se situe plutôt à 4,4 %. Quand on parle de la population dans son ensemble, on parle de la population de 15 ans et plus.
Pascal, c'est questionnant, ça, que notre jeunesse ait de la misère à accéder à l'emploi?
Ben oui, 15 ans, on s'entend, bon...
Ouais, c'est souvent des petits emplois à temps partiel. Là.
Exact, et souvent encore sur les bancs d'école et tout ça, en montant, elle précise quand même que non, ça reste que ce sont des gens aussi qui se cherchent du temps plein. Puis là-dedans vient un clin d'œil à la question qu'on se pose, toi et moi, depuis plusieurs émissions. Ouais. Qu'est-ce qui fait que notre jeunesse se positionne encore plus dans l'axe économique? Comment est-ce qu'on explique que ça a un intérêt
c'est vrai.
De plus en plus grandissant chez nos jeunes de regarder ce qui se passe au niveau économique? On parlait de la difficulté à accéder à l'immobilier, à avoir une hypothèque, à avoir une maison à soi, à réussir à faire des projets. On voyait que, bon, quand ça se ramène un petit peu plus à l'individu, c'est là où la question économique devient intéressante. Puis c'est rare qu'on voyait ça chez notre jeunesse. Mais je pense qu'il y a des facteurs importants à nommer pour les jeunes à risque au niveau de l'emploi.
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Certes, en premier lieu, on peut parler de la croissance de la population active, mais on peut aussi aller plus profondément dans des raisons économiques au niveau de l'adéquation entre l'offre et la demande de travail. Donc, d'abord, il y a une certaine inadéquation entre les compétences disponibles chez les jeunes et la population en général, bien sûr, mais si on se concentre principalement sur la tranche des 15 à 24 ans, puis les compétences qui sont recherchées par les employeurs. Il y a aussi le fait qu'ils ont une faible expérience au niveau professionnel, ce qui peut limiter l'accès à certains postes stables dans un marché du travail qui est compétitif comme présentement. La transition entre les études puis le marché de l'emploi fait aussi en sorte qu'ils sont plus enclins à changer de poste ou de secteur, ce qui augmente leur exposition au chômage frictionnel. Ils vont aussi occuper des emplois qui sont de nature plus précaire pour certains d'entre eux, sans qu'on puisse parler d'une règle générale, mais on va parler parfois de contrats temporaires, de temps partiel, d'emplois saisonniers, et j'en passe.
Oui, beaucoup d'emplois en contrat chez les jeunes, là, c'est ce que je comprends.
Oui, mais tu sais, la question a été quand même répondue d'une manière où, OK, le temps partiel, OK, le contrat, mais ça reste que c'est plus complexe parce que selon ton niveau d'études, selon le moment où tu sors de tes études, les postes sont comblés. Dans le moment où, il y a 10 ans, on parlait de « Hey, je veux tellement t'avoir dans mes rangs, peu importe l'âge que tu as, peu importe le salaire que tu veux,
en effet.
La banque de congés de vacances », il y a quand même un retournement actuellement, puis les jeunes ont moins ce gros bout du bâton-là, il y a un facteur très intéressant, moderne, actuel, qu'il ne faut pas oublier.
Puis finalement, un facteur qu'on tend parfois à omettre, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle sur le marché du travail, qui offre autant des opportunités que des défis. Surtout pour les emplois dont l'exposition est forte, mais la complémentarité est faible. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont occuper des emplois où est-ce que l'automatisation peut remplacer leur poste, notamment avec des technologies de substitution qui vont être mises en place puis qui vont faire en sorte que ça va être plus difficile d'intégrer le marché du travail.
Très intéressant parce qu'on parle de plus en plus de cette intelligence artificielle-là qui va venir changer le monde du travail. Et là, on le ressent déjà chez notre jeunesse.
Puis là, je posais la question, OK, mais ça, c'est pas un peu normal, tu sais, t'es jeune, on voit de nouveaux emplois sur les réseaux sociaux. Il y a une valeur de profiter de la vie qui est très forte auprès de cette jeunesse-là aussi, puis d'avoir tout de suite. Tout peut-être un peu rapidement.
Oui, c'est drôle parce que ça rejoint justement le texto d'Anne-Marie qui dit « Est-ce que c'est le fait que les jeunes ne veulent plus faire n'importe quoi que ça a un impact sur leur niveau d'emploi, sur leur taux de chômage? »
Écoutons l'économiste Rosalie Forgue.
C'est sûr que ça a toujours été observé. C'est une tranche qui est plus vulnérable aux fluctuations économiques en raison de la nature des emplois qui sont occupés avec prépondérance. Par contre, on doit noter qu'il y a une augmentation du taux de chômage qui a rarement été vu, là, qui est quand même en rupture avec ce qu'on observait avant.
Alors, il ne faut pas juste se fier sur un choix de travailler moins. Il y a vraiment un contexte où on a moins de possibilités de travailler.
Donc, il faut enlever ce préjugé-là de « Bah, les jeunes sont difficiles ».
Faut pas juste s'appuyer sur ce bouton-là.
Parfait. Merci, Pascal.
Le contexte de la population active maintenant, un peu comme toi et moi et tous ceux qui nous écoutent, ça ressemble à quoi?
Donc, on va parler de la population active, donc, puis qui sont en milieu de carrière, ils ont une bonne employabilité présentement. C'est 4,4% de taux de chômage qui nous rapproche du plein emploi. Parce qu'il importe de souligner que le plein emploi, ce serait pas un taux de chômage à zéro. On parle toujours entre 3 et 4%, voire 5% pour le taux de plein emploi. C'est le taux auquel les entreprises n'ont pas peur de réaliser des investissements par crainte de manque de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est bien intéressant pour les travailleurs de cette tranche d'âge-là. Par contre, encore une fois, c'est important d'y aller par secteur. Donc, on va noter certains secteurs où est-ce qu'ils ont des fortes hausses de l'emploi, d'autres qui ont des diminutions. Puis ça peut être tributaire de plusieurs facteurs, dont la conjoncture économique. On sait que certains secteurs sont plus affectés par les menaces tarifaires présentement, puis qui engendrent une incertitude importante. Puis même si cette menace-là ne se concrétisait pas, l'incertitude demeure le pire ennemi de l'économie. Donc, certainement un effet sur cette tranche d'âge-là aussi.
Quels secteurs d'activité sont à prioriser? Si tu habites à Québec...
Ouais.
Ben, où est-ce qu'on va?
J'étudie dans quoi? Ouais. J'apporte mon CV où?
Si je m'en viens habiter à Québec, dans quel secteur d'emploi je vais réussir à trouver un petit peu plus de travail? Et la même chose pour Chaudière-Appalaches. Point d'interrogation, j'ai posé la question à Rosalie Forgue.
Ben, d'abord, côté secteur, on va noter en capitale nationale une forte industrie des services publics, de l'optique photonique, des services professionnels, des services scientifiques. Bien sûr, il y a d'autres secteurs. J'en nomme seulement quelques-uns. Côté Chaudière-Appalaches, il y a aussi la présence de tous ces services-là, entre autres avec les institutions financières, mais aussi une forte prépondérance du secteur manufacturier. On n'a qu'à penser à la Beauce, à la couronne sud de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est sûr que ça amène des contextes économiques au niveau de l'employabilité qui sont différents puis qui réagissent de manière différente aussi à tout le contexte de main-d'œuvre puis le contexte de risque tarifaire présentement.
Très intéressant parce que je pense que des fois, tu as l'impression que c'est juste un contexte de loyer, un contexte d'accessibilité à se loger. Non, non. Si tu commences à payer 45, 50 $ d'essence aux deux jours pour aller travailler dans ton secteur, ben, il faut aussi que tu le vois. Puis je fais un petit clin d'œil à Jeunes en région, place aux jeunes en région. C'est pas
oui,
juste pour les
vrai.
Gens de 16-17, là,
non.
Mais eux peuvent vous donner une orientation sur qu'est-ce qui est agréable et où est-ce que les secteurs d'activité vous demandent.
Exactement. Puis vous pourriez aller travailler en région par exemple, au Saguenay ou sur la Côte-Nord.
Juste Chaudière-Appalaches est considéré comme
c'est
région.
C'est vrai,
aussi.
Avec la Beauce, exactement. Donc, pour du travail là, plus dans le domaine manufacturier, là. C'est un programme fort intéressant.
On parle beaucoup des employés. Est-ce qu'il y a des craintes au niveau des employeurs?
On a eu la chance de discuter avec des acteurs de différentes régions. Puis, je vais donc vous donner une réponse qui nous est revenue sans me baser sur les chiffres. Côté capitale nationale, c'est souvent le premier enjeu qui nous revient. On est inquiet, il y a de l'incertitude économique, on ne sait pas où est-ce qu'on doit aller côté investissement, recrutement, etc. Tandis que Chaudière-Appalaches renforce la crainte d'une pénurie de main-d'œuvre. Donc, bien qu'il soit fortement exposé par le secteur manufacturier, la crainte de pénurie de main-d'œuvre demeure, somme toute, au sommet des préoccupations des entrepreneurs auxquels on a eu la chance de parler.
On est encore là-dedans, ironiquement. Ouais. Ça veut dire que peut-être une pénurie de main-d'œuvre qui est plus qualifiée ou tu as de la misère à les combler.
C'est ce que j'allais dire. Dans des domaines plus spécialisés, là, je sais qu'en ingénierie, c'est vraiment pas évident pour avoir parlé à des firmes
puis c'est une roue
d'ingénierie
qui tourne,
présentement.
Parce que là, tu as l'intelligence artificielle qui va peut-être aller combler ces postes-là.
Exactement.
Moins de postes pour les jeunes qui arrivent sur le domaine du travail. Ceux qui sont actifs, ben ils sont déjà probablement placés. Et j'ai eu une discussion avec elle sur les seniors, nos personnes âgées.
Oui.
Il y a eu des mesures gouvernementales qui ont été prises pour les ramener au travail, pour pas trop les imposer au niveau des impôts et tout ça.
Exactement.
Mais en fiscalité, il faut vraiment travailler fort. Nos aînés vont être énormément dans pas longtemps à la retraite. Ça va être une population grandissante au niveau de gens à la retraite. Il faut avoir des incitatifs fiscaux très intéressants pour eux.
Clairement. Justement, quand je vais à la quincaillerie, je souhaite que ce soit un aîné qui me réponde parce que je sais qu'il va l'avoir fait la construction que je suis en train de faire.
Oui. Clairement pas Pascal CV.
Non, fait que je suis très heureux de voir un seigneur. Je me dis, hein? Parfait, c'est sûr qu'il me donne le bon conseil. Fait que juste pour les quincailleries, ça prend du seigneur.
Ça prend du seigneur.
Merci Pascal, c'est un excellent dossier sur l'économie et l'employabilité dans la région de Québec et la région de Chaudière-Appalaches. On le rappelle, ça va être des enjeux très importants pour la prochaine campagne électorale, que ce soit au municipal ou au provincial là, qui s'en vient dans un an. Parlant de politique provinciale au retour de la pause, ce sera Lambert Drainville qui va être avec nous. On fait retour évidemment sur les sondages d'aujourd'hui qui placent la CAQ dans les bas-fonds. Et on va poser aussi la question à Lambert Drainville. Hey, si t'étais le chef du PQ, toi, tu continues-tu avec la souveraineté dans le premier mandat ou non? Il a dit qu'il m'a préparé une petite réponse. J'ai bien hâte d'entendre ça. Vous êtes à l'émission d'En Jase sur Boulevard 102.
Ouais, on parle de pneus d'hiver. Moi, je vais vous parler de partie de Noël. C'est bien plate, là, mais même s'il fait 24 degrés dehors avec le soleil, c'est des choses à planifier. Si vous voulez pas être dans le brouhaha de tout ce qui est complet, ben c'est aussi le cas pour votre partie de Noël d'employés, de famille, etc. Et j'ai un endroit où vous envoyer parce qu'on le travaille très, très bien, ça. Le niveau festivité, le niveau organisation, service impeccable, c'est au complexe de l'hôtel Morissa Grande Allée. Pourquoi? Ben, pas premièrement le positionnement. Le positionnement sur Grande Allée, dans le temps des fêtes, ils n'ont même pas besoin de se poser de questions. La rue est décorée pour donner une ambiance. Fait que tu n'es pas entré dans le complexe, que tu es déjà dans le temps des fêtes. C'est magnifique. C'est aussi l'endroit idéal pour des rencontres corporatives, des réunions de groupe, des rassemblements d'affaires. Pourquoi? Ben, parce qu'on a l'hôtel, on a le restaurant, on a le cigar lounge, puis on a le speakeasy. Speakeasy, là, je vous parle du Maurice, je pense, presque chaque semaine, puis je savais même pas qu'il existait. Puis ça, j'aime ça. Ça veut dire là, qu'il y a des gens qui en profitaient de façon un petit peu en underground et tout ça. Mais moi, je vous en parle à la radio parce que pour l'avoir vu, l'avoir expérimenté, je veux que vous y alliez. Le speakeasy dans le complexe de l'hôtel Maurice, c'est magnifique. On aime ce genre d'ambiance-là, un peu sexy, un peu feutré, un peu hors gros party hein, de Grande Allée. Par contre, tu veux faire le gros party directement dans le complexe de restaurant, là, je veux dire, il y en a, il y a de l'ambiance à tous les jours. Alors, tu choisis. T'es plus hôtel, restaurant, cigar lounge, speakeasy, t'as tout ça. Et réserve dès maintenant pour ton party de Noël. Les disponibilités, ben ça s'envole rapidement. On est là-dedans le 17 septembre, c'est le moment. Et pour le faire, c'est hôtelmaurice.ca. T'es pas obligé de tout prendre, t'es pas obligé d'aller dans chacune des salles, t'es pas obligé de coucher là, mais tu peux prendre un de ces éléments-là et assurément, ça va faire partie de la réussite de ton party de Noël du côté d'hôtelmaurice.ca.
Un emploi stimulant dans le domaine...
Pourquoi on entend ça? Pourquoi on entend ça? Lambert, est-ce que tu es en train d'écouter la toune de Leadership Québec?
Hey, c'est mon...
Non!
C'est lui!
Ouais,
c'est ma toune. C'est mon moment... quotidien.
OK, tu veux-tu qu'on, veux-tu qu'on te fasse un jingle avant d'entrer en onde avec cette chanson-là ou...
Moi, j'adorerais ça, la gang. Si vous pouvez faire ça, ça serait le plus beau des cadeaux que vous pourriez me faire. C'est absolument un succès fantastique. Puis s'il connaît le même succès que le précédent grand jingle de Maxime Bernier et ses suites, disons que c'est prometteur pour la suite pour M. Hamad.
Il n'y a rien qui va dépasser le jingle de Maxime Bernier. Je suis fan depuis toujours, mais je pense qu'on pourrait t'en faire un à toi. On lance ça comme ça, Lambert.
Ouais, s'il y a des gens qui écoutent là, qui sont bons pour faire des jingles.
Avec l'intelligence artificielle, on en veut un pour Lambert.
La chronique Lambert.
Lambert Drainville, on en parlait hors d'onde. On veut pas encore taper sur le clou. Ouais. Mais Moses, que ça va mal à cac.
Ouais, puis c'est ça, on va essayer de taper sur les clous de tout le monde, comme on le fait toujours, mais. Bon, c'est sûr, les sondages à matin, là, moi, je prends tout le temps de le dire quand on parle, je prends tout le temps le temps de le dire quand on parle de sondages, c'est les sondages, c'est une capture d'écran dans le temps, là, tu sais, ça peut changer vite, comme un screenshot aujourd'hui, mais ça donne, disons, un beau portrait de la tendance présentement au Canada, à travers le Canada, au Québec, puis les sondages, là, je te dirais en général, autant national qu'au Québec ou même pour la région de Québec, ce qu'on a vu dans le soleil, sont très, très fiables. Fait que, tu sais, déjà, la semaine dernière, on avait un Angus Reid qui plaçait M. Legault loin, loin dernier de tous les premiers ministres au Canada. Même certains médias rapportaient que c'était le pire résultat pour un premier ministre de la Fédération du 21e siècle.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, il était à 80% d'approbation en 2020, à peu près aux alentours de la pandémie. Là, il est à 22%. Le deuxième pire dans la liste était Doug Ford, qui avait un résultat déjà quand même bien supérieur à 41. Fait que, tu sais, ça commençait avec ça, c'était la trame narrative la semaine dernière. Cette semaine maintenant, ce matin, le léger, intention de vote, PQ est à 38 avec plus 3 par rapport au dernier léger. Une autre progression, se maintient en tête, continue d'avoir le vent dans les voiles. Parti libéral du Québec, un léger point de plus. Donc, une petite hausse pour le PLQ. Mais le PLQ, leur gros défi, évidemment, ça demeure et toujours le vote francophone. Puis encore là, quand tu regardes les alinéas du sondage, ben, sont à 15% chez les francophones, ce qui est très, très bas.
Le PQ les domine de 30%, si je ne me trompe pas, chez le vote francophone?
Exactement. Puis la CAQ est encore en avant du Parti libéral chez les francophones. Fait que si eux autres veulent espérer gagner l'élection ou à tout le moins faire un bon score, ils vont devoir améliorer cet aspect-là spécifiquement parce que leur vote est très, très, très concentré, évidemment, encore à Montréal. Pour la CAQ, on est à 16%, perte d'un point. Parti conservateur, 11%, un petit point. Donc, se maintiennent dans le portrait. Et pour Québec solidaire, là, eux autres aussi, c'est comme... Je pense que c'est encore pire que la CAQ, parce que moi, pour moi, il n'y a rien de pire que l'indifférence.
Oui, c'est ça. C'est la mort, là, Québec solidaire. Là, je veux dire, tu peux rien espérer. Là.
Et tu veux comme pas en parler parce qu'ils font, tu sais, ils font quasiment pitié. Là. Fait que pour eux autres, là, ils sont en pleine course à la chefferie. On leur souhaite un chef qui va être en mesure d'aller chercher un peu de visibilité, mais c'est sûr que leur plus gros problème à eux, c'est effectivement, depuis le départ de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est justement ça, là, la capacité à aller chercher de l'attention, la capacité à faire parler d'eux. Gabriel avait cette capacité naturelle-là à attirer l'attention. Voyons voir qui sera le prochain chef et s'il va être capable de les aider à ce niveau-là. Le remaniement ministériel aussi, on en avait parlé, Jeff, Pascal, c'est un exercice qui est souvent surfait. En politique, les mordus en parlent, on en jase, ça fait couler beaucoup d'encre, mais dans le Québec moyen, dans la population, généralement, ça ne change pas grand-chose. Et ce sondage-là de ce matin le confirme, là, 70% des Québécois qui estiment que ça ne va absolument rien changer. Les seules bonnes nouvelles, je vous dirais, dans le léger de ce matin, pour ce qui est de la CAQ, c'est les chiffres au niveau de la laïcité et des prières de rue, qui, on le sait, là, ça fait partie des priorités de la CAQ pour l'année qui va mener à l'élection de 2026, de mettre l'emphase sur le dossier identitaire à travers les baisses des seuils en immigration, à travers justement un projet de loi pour interdire les prières de rue, renforcer la laïcité dans les écoles. On a aussi une constitution québécoise qui s'en vient, qui va être pilotée par Simon-Jolin Barrette. Fait qu'à ce niveau-là, la CAQ, en ayant fait une de ses priorités, clairement est sur le bon picot parce que 70% des Québécois jugent encore important que l'État québécois soit laïque. Il y a un assez gros consensus là-dessus. Et au niveau des prières de rue aussi, quand même, moi j'avais fait un sondage maison sur mon Instagram où je te dirais beaucoup de gens avaient répondu disant que les prières de rue, c'était pas vraiment un enjeu au Québec. Mais ce sondage-là dresse un portrait un peu différent quand même. Là, 54% des répondants qui disent être favorables à une loi qui interdirait les prières de rue. Donc, quand même un appui qui est marqué pour ce genre de loi-là. Et là, évidemment, l'autre sondage qui est paru aujourd'hui, c'est le sondage Somme pour ce qui est de la région métropolitaine de Québec. Mm-hmm. Dans mon bout, plus dans mon bout, mais je suis un gars de Québec, toujours fier de mentionner que je suis un gars de Québec expatrié à Montréal.
Moi aussi, je serais fier de le nommer à ta place.
C'est
mais
ça.
On est la plus belle ville, Lambert-Drainville. Je sais pas ce que tu fais à Montréal, hein, en tout cas. Pascal, va falloir en m'emmener parler à Lambert dans le blanc des yeux. Là. On n'aura pas le choix, là.
Ah,
pas
ah, je suis au pitch. Je suis ouvert au pitch. Puis un retour à Québec, c'est dans les cartons. Là. Je te dis pas dans quel. Je te dis pas quand, mais je te dis.
Ah, il est lucide, ça veut dire notre Lambert.
Exactement, c'est bon ça.
Mais c'est vrai, tu parles du sondage ça, mais juste avant d'aller là, s'il te plaît, Lambert, ouais. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu penses que le PQ monte parce que les autres perdent ou vraiment le PQ a réussi? Puis là, je te parle peut-être en cotation majoritaire. Est-ce majoritairement parce que les autres ont perdu que le PQ monte ou c'est majoritairement parce que le PQ sait bien se placer en ce moment?
Je pense que c'est un mélange des deux. C'est tout le temps un mélange des deux.
Mais qu'est-ce qui prime un peu plus, mettons?
Comment?
Qu'est-ce qui prime un peu plus dans ton analyse personnelle?
C'est sûr que la montée du PQ est, si tu regardes les courbes au niveau de l'appui du PQ et tu regardes la courbe de la baisse d'appui pour la CAQ, ça se suit, là, c'est à peu près le même électorat. Les gens qui sont très nationalistes, qui vivent en région, les personnes peut-être plus âgées et qui avaient voté pour la CAQ en 2018, en étant un petit peu tanné, je pense, du fameux duel Parti libéral, Parti québécois, et qui avait donné une chance à la CAQ, bien là, ces nationalistes-là, ces indépendantistes même parfois, ou ces fédéralistes très, très pro-Québec, sont déçus visiblement et reviennent au bercail, au PQ. Donc, je te répondrai de cette façon-là.
On Merci. Parle avec Lambert Drainville qui fait des chroniques avec nous chaque mercredi et vendredi à 13h dans l'émission « On en jase ». Lambert, pas le choix de te poser la question parce qu'on va revenir dans une bonne vieille élection PQ, Parti libéral, fédéraliste contre souverainiste. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon et sa gang font bien de marteler que ce sera un référendum dans le premier mandat?
Ben, la question se pose parce que le sondage Palace du début de la semaine mentionnait qu'il y a quand même 64% des Québécois qui ne sont pas favorables à un référendum. Dans un premier mandat, c'est quand même une majorité...
C'est fort!
C'est une forte majorité de gens qui n'en veulent pas de référendum. En même temps, comme tu dis, le Parti québécois est au sommet des sondages depuis quand même une période considérable. Et donc, la question se pose, tu sais, est-ce que le PQ doit peut-être reculer sur cet engagement-là? Et bon, ma réponse à moi, c'est non. Et la réponse des gens au Parti québécois, je te le confirme que c'est catégorique et qu'il n'est pas question de changer d'idée. Puis bien honnêtement, Jeff, je veux dire, quand tu y penses, c'est logique. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon, depuis la course à la chefferie qu'il a gagnée en 2020, tape sur ce clou-là, est catégorique. Il veut un référendum dans un premier mandat et regarde tout le chemin parcouru depuis... Du bas des sondages, un parti que certains disaient allait peut-être disparaître, maintenant trône au sommet depuis plusieurs mois, remporter une victoire dans Arthabasca, va remporter une prochaine élection partielle dans les prochains 6 mois dans Chicoutimi. À sa place, Jeff, est-ce que, tu sais, je veux dire... Je pense
non, non,
que
à sa place, je ferais pareil, il n'y a pas de doute. C'est très conséquent dans son discours, là. Ouais. C'est clair, net et précis.
Je me demande à quel point les électeurs vont être un peu orphelins politiques pour la suite des choses. On dirait que je ne suis pas convaincue qu'ils sont convaincus eux-mêmes. Puis là, tu ne l'es jamais à 100% quand tu t'en vas élire ton prochain gouvernement là, ou voter. Tu n'es jamais convaincu et conquis par l'entièreté de la plateforme électorale qui te propose. Mais ouais. Je me demande à quel point chaque individu va être très confiant aux prochaines élections de qui il souhaite élire.
Oui, c'est ça. Ben écoute, ce qu'il faut comprendre aussi, tu sais, puis ça a été ça en 2018, c'est souvent comme ça dans les élections. Tu sais, il y a beaucoup de campagnes électorales qui se jouent sur qui c'est qu'on veut plus voir, là.
Oui.
Beaucoup plus que.
Je veux voir tel.
Ouais, qui c'est qu'on veut voir. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est important de garder ça en tête. C'est peut-être un petit peu malheureux, mais. Mais ça s'enligne pour être comme ça. Ça l'a été ça l'a été en 2018, évidemment, quand les gens voulaient sortir les libéraux. Et ça s'enligne pour être une élection comme ça en 2026 sur peut-être qu'on ne veut plus voir la CAQ là. Puis la vérité, c'est que le Parti québécois a gouverné souvent là, au courant de l'histoire du Québec. On n'a pas tout le temps procédé à des référendums. T'sais, si tu regardes, bon, l'élection de 76, première élection du Parti québécois, René Lévesque, tu sais, le mandat se termine avec un référendum, certes, mais ils ont fait, tu sais, ils ont transformé le Québec dans ce mandat-là. Là. On a juste à penser à la loi 101, la mise en place de la SAAQ, tout ce qui est par rapport aux droits des travailleurs. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements qui ont été faits dans ce mandat-là. Ils ont procédé à un référendum à la fin du mandat, l'ont perdu quand même dans une marge certaine. Et sais-tu quoi? Les Québécois les ont réélus l'année d'après, en 81, avec une écrasante majorité. Comme quoi, ben, les Québécois se disaient, écoute, non, ton référendum, on n'en veut pas, mais on juge que tu as été un bon gouvernement, que tu as bien gouverné le Québec, puis que tu as apporté des changements qui nous plaisent. Alors, tu sais, moi, je pense que M. Saint-Plamondon, ça va être ça, sa philosophie. Il va aller de l'avant, il va vivre et mourir avec son référendum, puis ça n'empêche pas qu'il peut aller, tu sais, qu'il peut bien gouverner le Québec, qu'il peut aller chercher des gains considérables. Puis si tu veux mon avis, cette menace-là qui plane au-dessus de, disons, du gouvernement du Canada, comme quoi un référendum est dans les cartons, moi, je pense que ça l'aide à avoir un rapport de force qui va peut-être lui permettre d'aller chercher pour une fois des vrais gains auprès du gouvernement du Canada. Tu sais, on l'a entendu pendant tellement longtemps, M. Legault, taper sur le clou de « on veut plus de pouvoir en immigration, on veut plus d'argent pour les transferts en santé ». Puis, bien honnêtement, les résultats à ce niveau-là sont il n'y en a pas. Il n'y a pas de résultats au niveau de gros gains que le gouvernement de M. Legault est allé chercher au niveau du gouvernement du Canada. Fait que cette carte-là du nationalisme, puis on débarque avec nos gros sabots, mais en même temps, on ne veut pas vraiment faire de référendum. Elle n'a pas fonctionné.
Ouais. Le référendum est un peu le rapport de force que les syndicats ont avec la grève. T'sais, je le compare dans le sens que tu as un moyen justement de négociation, ce que la CAQ n'avait pas. Chose certaine, Lambert, ça fait réagir énormément par texto parce qu'on a des gens qui disent « Hey, parfait que le PQ parle de référendum, ça veut dire que je ne voterai pas pour eux autres. » On en a d'autres qui disent « Hey, moi, je suis content qu'il s'assume puis je vais voter pour lui. » On a même des souverainistes qui nous disent « Ouais, moi, je suis souverainiste, mais j'aimerais ça pareil qu'il me convainque au niveau de l'économie. » Fait qu'il y a encore plein de questions à répondre.
Puis tu sais, ça se fera pas demain, je pense, si jamais ça va de l'avant où on élit le Parti québécois. L'affaire que je trouve intéressante, par exemple, c'est si avant même d'être élu, ils se rendent compte que c'est pas ce qui va les faire gagner, le fameux vote pour le référendum, ils sont quand même extrêmement transparents. Est-ce que c'est la manière dont ils vont gouverner s'ils arrivent au pouvoir? Ça peut toujours changer. Mais je trouve ça le fun.
Puis c'est ça qu'on me dit dans leur équipe, c'est ce qui a fait leur succès, la cohérence, la clarté du message. Et même, on me dit, tiens, en politique, là, la crédibilité, c'est tout ce que tu as. Et le prix politique de changer d'idée, là, il est énorme.
La girouette.
Et on le voit présentement, on parlait des sondages, des chiffres de la CAQ plus tôt. Changer d'idée sur trop de dossiers, ça leur a fait énormément mal.
C'est ce qui les a tués, Lambert, dans la région de Québec. Juste avec le troisième lien, ça a anéanti leur crédibilité.
Absolument. Absolument. Alors, comme je te dis, ils vont vivre et mourir avec ça parce que c'est cette cohérence-là, c'est cette clarté du message-là qui les a menés là où ils sont. Et écoute, ils sont même allés, ils étaient en Alberta, Paul Saint-Pierre-Plamondon, la semaine dernière, là, pour tisser des liens avec cette province-là. On me dit que son message a été très bien accueilli. Puis comme tu disais, Pascal, c'est un travail qui se fait, tu sais, comme on... Présentement, là, on est à, comme on disait, au niveau du référendum, à peu près à 64 % des gens qui sont contre, 35 % des gens qui sont pour. Eh bien, 35 % des gens qui sont pour, qu'est-ce que tu veux, c'est 15 % plus 1. Là, si on veut atteindre le 50 % plus 1, c'est 15-16 % de un oui qui passe. Puis, tu sais, nécessairement, chaque oui, chaque personne qui traverse du côté du oui, bien, c'est une personne qui quitte le côté du non. Donc, tu coupes ce 15 %-là en deux, on parle de 7, 8, 9 % qu'il faut que tu ailles chercher. Tu as 5 ans, on voit que là, il s'en va en Alberta, on voit qu'il se promène. Il y a son livre bleu aussi qui s'en vient là, sur quel va être son plan, quelle va être sa stratégie et les réponses aux questions que tu soulevais, Jeff, par rapport à l'économie. Il sort en janvier.
Donc janvier, ça va être répondu là.
Fin janvier 2026, mm-hmm. Il va sortir son livre bleu avec son plan match d'ici à l'élection. Et après ça, les Québécois vont pouvoir se faire une tête. Tu sais, Jeff, ce qu'on m'explique aussi, puis tu sais, moi, la majorité des gens qui étaient là, en fait, tous les gens qui vont avoir en bas de 50 ans à l'élection de 2026 n'auront pas connu les grandes époques référendaires, tu sais. Puis on sent que ça a un petit peu changé, là, tu sais, cette espèce d'épouvantail-là de ça fait peur, puis les gens ont peur de tout ça, du référendum. Moi, je sais pas pour vous, mais on dirait que je le sens moins, ça. T'sais. Un référendum, c'est une question populaire, puis là, c'est la question de la souveraineté qui va être posée, mais ça se fait partout dans le monde sur un paquet de questions. Puis qu'est-ce que tu veux? On demande au peuple, qu'est-ce que vous pensez? Puis si les gens disent non, bien, les gens disent non, puis on continue, puis... Ça n'empêche pas que le Parti québécois, comme je disais, peut aller chercher des gains. Puis tous les précédents gouvernements du PQ qui n'avaient pas une position claire sur cet enjeu-là se sont cassés le nez.
Ouais, ça n'a pas été payé.
Rappelez-vous, Mme Marois, en 2014, ouais. Elle n'était pas certaine. PKP arrive, il met le poing dans les airs, là, c'est la cata. Ils se font sortir. Eux autres sont clairs, sont fidèles à leurs convictions, puis moi, je pense que, comme tu disais, Pascal, c'est la bonne stratégie à emprunter.
C'est une opinion que j'ai, puis honnêtement, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce moment, on réclame tellement là, dans l'électorat de la transparence, de la vérité, savoir où est-ce qu'un parti s'en va. Pas des affaires de girouette, de « on tâte le terrain » comme François Legault peut faire en parlant à haute voix, en disant « oh là, est-ce que c'est chaud par là ou est-ce que c'est froid par là? » Ils veulent quelque chose d'assez direct, une ligne directrice qu'on va suivre, qu'on soit en accord ou pas. Ils préfèrent ce genre de stabilité-là et surtout la transparence et l'honnêteté. Puis on le réclame tellement en politique dans les au moins 5 dernières années. Là, je vois de façon féroce qu'on le réclame en tant qu'électeur. Je pense que n'importe quel parti, même si les gens sont en accord partiellement avec leur façon de faire, veulent beaucoup plus de contenant que de contenu. Ça veut dire la façon de faire de la politique en premier lieu versus qu'est-ce qu'ils vont appliquer.
Oui, puis le défi, c'est de le demeurer une fois que tu deviens au gouvernement.
Et voilà, oui.
Les pressions des syndicats, les pressions de tous les groupes de pression rentrent en jeu. Quand je parlais avec les gens au Parti québécois, je leur posais la question aussi, ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci, c'est avec Trump, l'instabilité économique, tout ça, c'est tellement pas le bon moment pour se lancer dans une campagne référendaire. Puis c'est sûr qu'il y a cette façon-là de voir les choses. Puis bien honnêtement, quand tout ça est arrivé avec Trump qui a pris le pouvoir, les tarifs et tout, moi je me disais, tabarouette, c'est la pire affaire qui peut arriver pour... À ce moment-là, c'était le Bloc qui s'approchait de l'élection. Là, maintenant, le PQ. Puis tu sais, j'ai pris le temps d'y penser. Puis ce qu'on entend, puis je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, mais on entend beaucoup que les gens, là... Tu sais, ça va mal, le coût de la vie, les gens sont plus capables de s'acheter une maison, tout coûte cher, on entend qu'on s'enligne vers une récession. La Banque du Canada, il y a quelques heures à peine, a baissé son taux directeur, ce qui envoie le message un petit peu qu'elle veut stimuler l'économie. Tu sais, ce qu'on me disait à l'interne, c'est il y a beaucoup de gens qui leur disent, il y a de plus en plus de gens qui leur disent, tu sais, à un moment donné, récession, économie qui va mal, on les a toutes essayées, les autres options. Puis on s'est quand même retrouvé là. Mm-hmm. C'est un peu comme un gars qui arrive, tu sais, il va au casino avec son 100$, puis là, il joue, puis il perd, puis il perd, puis il perd, puis à la fin, il reste 10$. Là, t'es là, puis t'es comme, ouais, avec mon 10$, je m'en vais tout de la table, puis je garde mon 10$, ou bien je le joue, je vais all in, puis je me dis, ben regarde, rendu là, tu sais, ouais. Oh, y'all, puis je vais essayer de me refaire, tu sais, je sais pas comment vous voyez ça, mais...
Écoute, on garde la question pour un autre moment parce qu'on va avoir Éric Lacroix de la firme Somme qui va venir nous parler justement du sondage pour la grande région de Québec. Ça va être très intéressant à suivre. Lambert Drainville, on se reparle vendredi.
T'es
sur nos zones avec nous à 13h à chaque mercredi et vendredi dans l'émission On en jase. Pascal Cévon, on a une promo extraordinaire pour nos auditeurs.
Là, tu parles des remparts, c'est sûr.
Bien sûr!
Parce qu'on sait que c'est la promo par excellence en ce moment sur nos ondes. Vous êtes nombreux à la vouloir, vous êtes nombreux aussi à vouloir aller aux remparts, qu'on vous donne des billets ou pas. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on vous garde, puis on va le faire au retour de la pause, OK?
OK.
Donc, soyez là, Nous, on vous parlera en part, puis assurément qu'on vous gâte.
Ah, ouais, donc j'aime ça de même. Et on va parler, comme je l'ai dit, avec Éric Lacroix de la firme Somme. Catastrophe pour la CAQ dans la région de Québec. C'est le PQ ou le PCQ qui va prendre les devants? Éric Lacroix nous donne la réponse à l'émission Nageuse sur Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1. Avec Jeff Fortin et Pascal CV.
L'émission Nageuse sur Boulevard 101 avec Jeff Fortin, Pascal CV de midi à 14h. Météo 24 degrés présentement sur Québec, généralement ensoleillé. 24 degrés demain, possibilité d'averse à seulement 30%. 17 degrés ensoleillés vendredi, 16 degrés ensoleillés samedi, 21 degrés ensoleillés dimanche. T'en veux-tu du beau temps, Pascal CV, avant d'aller monter ta montagne?
Mais enveloppe! S'il te plaît, hier, écoute, j'avais des affaires à régler, puis j'ai décidé que je réglais ça sur une terrasse. Je trouve que ça marie très bien le fait de profiter des derniers rayons de soleil faire des trucs de job.
T'as clairement raison. On a au bout du fil le vice-président au niveau de la firme de sondage Somme, Éric Lacroix. Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien. Bonjour, Jeff. Bonjour, Pascal.
Comment on se retrouve, M. Lacroix?
Ben oui, on fait la partie 2 de ce sondage Somme. On s'était parlé hier. Éric, avant de commencer la discussion, je veux te faire entendre ce qui est arrivé à François Legault hier au stade Canac lors du début de match des Capitales de Québec.
Ça s'est passé il y a quelques minutes.
Éric, il
n'y
a
pas...
Pas
Donald Trump, ça, qui
l'a réveillé. Ouais, c'est ça! Il n'y a pas grand-chance, Éric, que la CAQ remonte dans la région de Québec. Ça n'a pas de bon sens. Moi, de mémoire, je ne me souviens pas avoir entendu un premier ministre se faire huer avec autant d'intensité.
Non, effectivement. Puis je pense que les résultats du sondage sont exactement au diapason de ce qu'il a entendu hier au stade Canac. Sérieusement, j'ai fait des recherches là, avant qu'on entre en onde tantôt, et je n'ai pas trouvé aucun premier ministre dans l'histoire récente du Québec, des sondages qu'on a fait, qui a eu un score de satisfaction sous les 20%. Parce que là, la nouvelle, c'est que dans la grande région de Québec, la satisfaction à l'égard du gouvernement Legault, c'est 14% présentement. Jean Charest, dans ses pires moments en 2012, dans la crise étudiante, il y avait 27, le double. C'est pas fort, 27.
Ah, c'est bon, ça, les comparatifs.
Ben oui, parce que la crise étudiante, on se rappelle, c'était le chaos partout dans la province.
Une grande division intergénération.
Exactement. Puis on sait que quelques mois plus tard, Jean Charest a perdu, évidemment. Là. Puis la grosse différence, par contre, avec Jean Charest à l'époque, c'est que peu importe s'il était pas populaire, le West Island va toujours sauver le Parti libéral. OK, à moins de peut-être dans une ou deux générations, ça, la situation aurait significativement changé, mais présentement, là, puis pour les 50 dernières années, le West Island vote pour le Parti libéral. OK? Fait que pour lui, il a sauvé les meubles. Par contre, à 14% de taux de satisfaction dans la région de Québec, si ça ne change pas, ils vont être complètement rayés de la carte. Il n'y aura plus un député dans la Beauce, région de Québec. Charlevoix, ça va être rayé complètement.
Je te prends un peu au dépourvu. Peut-être, là, on fait le comparatif avec Jean Charest, la crise étudiante. On a-tu le segment austérité avec Philippe Couillard aussi en comparatif?
Oui, M. Couillard, 28% de taux de satisfaction. Ça, on était en mai 2016.
Fait que c'est quand même le double encore de François Legault.
Exactement.
Puis je trouve ça intéressant ta comparaison avec le West Island, parce que la région de Québec, normalement, pour la CAQ, ça devrait être le West Island de la CAQ. Donc, c'est signe que ce parti-là est juste en déroute, là.
Bien, plus ou moins. C'est qu'en fait, la CAQ, c'est l'ADQ avec des gens qui sont plus ou moins à droite, que peut-être Éric Duhaime souhaite sans doute récupérer. Et c'est beaucoup des anciens péquistes qui s'étaient convertis à la CAQ parce que François Legault est un ancien ministre péquiste. Donc, il attirait des deux côtés. Là, présentement, je veux dire, la valeur refuge pour les anciens péquistes, ils vont retourner au PQ. C'est ce qu'on voit dans les intentions de vote. Donc, le PQ est plus populaire qu'il l'a jamais été. Est-ce que les anciens ADQistes, un peu plus à droite, vont se diriger vers le Parti conservateur ou les libéraux? Ça sera à voir, mais à 14%, là, c'est presque... On avait l'expression « anybody but Pauline » il y a plusieurs années.
Ouais.
Est-ce que ça va être « anybody but François »
Ça s'en va vers là.
Ça sera à voir, là.
En date d'aujourd'hui, Éric Lacroix, si je te demandais qui va gagner dans la région de Québec entre le PQ et le PCQ, qu'est-ce que le sondage dit?
En fait, ça risque d'être très serré. Puis là, ça va être intéressant de suivre ses intentions de vote-là dans les prochains mois, parce qu'il reste encore une année. Fait que ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. Mais est-ce que la CAQ va réussir à renverser la vapeur puis reprendre du poil de la bête? En tout cas, ça, certainement pour l'instant, ça semble pas rassurant. Parce qu'on a demandé aux gens, est-ce que le remaniement ministériel a fait en sorte que vous pensez que ça va relancer le gouvernement Legault? Il y a seulement 11 % des gens qui pensent que ça va les aider à se relancer.
Tellement oui, important, ajouté, cette question-là. Et je vais...
Exact.
C'est la question parce que le parti politique croyait que ça allait faire une différence et ils se sont leurrés.
Oui, bien, ils ont essayé, je veux dire, de gâter, entre guillemets, la région de Québec. Jean-François Simard s'ajoute. Mais bon, Jean-François Simard est certainement une personne très sympathique, certainement un bon ministre, certainement un gars très compétent. Mais est-ce que Jean-François Simard, sa nomination, remplace, compense Northvolt? Est-ce que ça compense sa clique? Lyon Électrique? Je veux dire, les gaffes, puis toute la valse hésitation des 8 dernières années autour du troisième lien, tu sais, on n'en fait plus, on fait juste transport en commun, on le déplace dans le centre. Tu sais, malheureusement, là, Jean-François Simard, oui, c'est une certainement une bonne personne, mais il ne peut pas, d'un coup de baguette magique, par son apparition, faire disparaître tous ces scandales-là qui collent au gouvernement actuellement. Là.
Éric Lacroix, en terminant, au niveau des sondages, on dit souvent que c'est fait pour monter et redescendre, mais ça fait 2 ans que le PQ est au sommet. Est-ce que le PQ va réussir à passer derrière la dernière année avant les élections et justement garder cet élan-là?
Probablement. La seule donnée dans l'équation, c'est l'appui à la souveraineté qui décolle pas, qui reste collé autour de 35 %. Puis ce sondage après sondage depuis plusieurs années, depuis 1995, en fait, où l'option va passer très, très près, là, à 50 %, mais ça ne décolle pas du 35 %. Est-ce que l'insistance de M. Saint-Pierre Plamondon va faire en sorte que ça va braquer les gens et que certains vont retourner dans le confort des libéraux? C'est pas impossible, mais en tout cas, à l'heure actuelle, si le vote avait lieu dans les prochaines semaines, il y a des très, très fortes chances que définitivement, il y aurait un gouvernement majoritaire du Parti québécois et il y aurait un grand nombre de députés, à mon avis, dans la région de Québec.
Éric Lacroix, merci pour ta participation les 2 derniers jours à l'émission On en jase et au plaisir de se reparler prochainement.
Ça m'a fait plaisir. Oui, contactez-moi si vous avez besoin d'autres choses.
Avec un immense plaisir. Salut Éric, merci beaucoup. Très précis dans son analyse, Éric Lacroix, de la firme de sondage Somme. J'ai apprécié énormément. Pascal, en fin d'émission de même, c'est le temps de gâter notre monde.
Ah, que c'est le temps de gâter le monde. Puis on avait parlé des remparts de Québec.
Ouais.
Là, on est vraiment là, sur cette toute nouvelle apparition au Centre Vidéotron pour que tu puisses vivre l'action de très près en gang pendant les prochains matchs des remparts de Québec. C'est où ça? C'est situé dans le bas des sections 108-109, donc c'est parfait pour un groupe de 20-30 personnes. Et ça te donne accès à quoi? La pizza, le popcorn à volonté. Oh. Une consommation alcoolisée, des billets pour la terrasse, le match et tout ça. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Puis spécialement pour Boulevard 102.1, on a des places à t'offrir 2. Donc, 2 pour les auditeurs dans cette nouvelle section privée-là, dès aujourd'hui. Donc, le 4e texto, dépêchez-vous, va se remporter cette paire de billets pour assister au match d'ouverture des remparts en direct de la nouvelle terrasse Alimentation Première le 21 septembre prochain. On est le 17, c'est dans pas long. Le 21 septembre prochain, à 15h, c'est d'une valeur de 100 $ ce que tu peux gagner. Et c'est dimanche, alors il faut que tu sois disponible dimanche. J'ai dit 4e texto, ouais. Ça va être au 418-971-1021. Et en passant, je veux que le 4e texto écrive « Yes, c'est moi oh! ». Alors, tous ceux qui ont déjà texté, retextez.
T'es trop généreuse, Pascal CV. Merci beaucoup. Il reste peu de temps à l'émission à surveiller cet après-midi, Pascal, évidemment. C'est Carl Malenfant à la commission Saclic.
Son témoignage, un des témoignages les plus importants, okay, parce que c'est oui. Grand Manitou du SAC.
Oui, il est arrivé avec son grand sourire de fendant arrogant tantôt. J'ai hâte de voir.
bouillant.
Ah oui, je suis bouillant. Je suis vraiment bouillant. J'ai hâte de voir comment le commissaire Galland va gérer Carl Malenfant. Évidemment, on en parle demain, Pascal,
c'est
à l'émission.
Baveux.
Ouais, on va en parler dans le caucus Iaccarini également. Ce qui suit à l'antenne, comme d'habitude, le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey. Marceau le soir avec SOS Nancy ce soir. Ça va être très intéressant.
Sur le burn-out parental. On est dans la rentrée scolaire.
Ouais,
on est dans le retour au travail.
Il y en a pas mal qui le vivent. Et nous, on se reparle demain à midi. Jeff Fortin, Pascal CV, l'émission On en jase. On a beaucoup de plaisir avec vous. Restez à l'écoute, guys. À demain. On en jase jusqu'à